Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction podcast 366 de Gameblog. Avec moi aujourd'hui, Julo.
Salut.
Rami.
Salut, salut.
Et quelqu'un qu'on avait promis de vous présenter, c'est Camille, notre nouvel élément. Camille, comment vas-tu ?
Salut, eh ben ça va très bien.
Et tu n'es pas trop stressé à l'idée de faire ton premier podcast avec nous ?
Oh non, ça va, grâce à vous, c'est rassurant.
C'est vrai ? T'as l'impression qu'on est sympathique ?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, bon, c'est l'impression générale qu'on a quand on arrive à la rédac, et puis à un moment, les traces se mettent à hurler, et puis tout change. Enfin bref, Camille, on va te présenter brièvement, parce que effectivement, c'est la première fois que tu participes à un podcast, mais on a déjà l'occasion de te lire depuis le début de l'année 2016. Tu es notre nouvel élément pour des parties très spécifique de Gameblog sur lesquels, eh bien, on peut le dire, Julo, moi, Rami, Julien, Traz, on est des merdes. Et il s'agit de...
du PC.
Ah, le PC, le monde du PC qu'on touche un tout petit peu avec Poufy, mais pas grand-chose. Quels sont, on va dire, les thèmes sur lesquels tu vas te focaliser autour du PC ?
Alors moi, je vais vous parler du hardware, mais pas uniquement. Je vais aussi parler, évidemment, des jeux, que ce soit les AAA et aussi beaucoup d'indés.
Ouais. D'accord, un peu d'e-sport aussi tu touches, non, de temps
en
temps ?
Oui, un peu d'e-sport, pour les gros événements, vous allez voir, on va faire des choses sur Gameblog par rapport à ça.
C'est vrai, du genre, vas-y, dis-nous tout, tu vas sortir les paillettes
Les paillettes, les stripteaseuses, tout, il y aura tout.
Ok, d'accord, bon bah en tout cas, bienvenue Camille,
bien,
on espère que vous aussi, vous allez lui souhaiter bienvenue dans les commentaires, parce qu'il va avoir des choses à nous dire dans ce podcast. Des choses à dire, et eh bien on va en parler maintenant, puisque le sommaire c'est maintenant. On va vous parler évidemment d'une des sorties de ce début d'année, c'est le nouveau jeu de Jonathan Blow, le papa de Braid va sortir The Witness. On va en discuter avec Julo qui s'est pris la tête dessus comme jamais. ensuite, et eh bien c'est un autre développeur qui a eu l'occasion de nous faire chialer qui sort son nouveau jeu, ça s'appelle Lost in Harmony, c'est Johan Fanis, un ancien d'Ubisoft Montpellier qui a travaillé notamment sur Soldat Inconnu. C'est un jeu qui est sorti tout récemment sur support mobile. Et Rami, on dirait que t'as bien aimé, mais on en parle tout à l'heure. Ensuite, et c'est la raison pour laquelle Camille est là, eh bien World of Tanks arrive sur PS4. Il est là pour qu'il y ait des gros obus partout. On va voir si l'adaptation vaut le coup de ce free-to-play qui a conquis des millions et des millions de personnes à travers le monde. Et on finira avec un jeu d'aventure narratif qui s'appelle Oxenfree, qui nous avait tapé dans l'œil il y a quelques mois avec Julo. J'ai eu l'occasion de me pencher dessus et de le finir, et pas qu'une fois d'ailleurs. Et ben, on va voir tout à l'heure si, une fois de plus, eh bien, les jeux narratifs ont des choses à dire. Mais avant...
Vaut mieux quand même, quand t'es un jeu narratif, d'avoir des trucs à dire.
C'est vrai, c'est un peu bancal comme formule, mais on ne recommencera pas le podcast pour ça. On va savoir si les jeux narratifs se sont dotés d'un nouvel ambassadeur de prestige avec Oxenfree. Mais avant ça, vous connaissez la règle. Et la règle, c'est...
La règle ?
Eh bien, c'est que on va tout d'abord passer au win de la semaine. Et qui c'est qui l'a winné ? Mon petit Rami.
Pour une fois que je peux parler d'un win, d'habitude c'est toujours un fail avec Kojima ou Konami. Ouais, pour une fois,
je t'ai peut-être une tête à fail, hein, je sais pas, je me pose la question.
Peut-être, ouais. C'est...
Alors, quel est le win de la semaine ?
C'est Witcher 2 en fait. C'est,
Witcher 2,
The Witcher 2, oui, excuse-moi.
Voilà.
Et en fait, il est arrivé avec la nouvelle vague de rétrocompatibilité.
Bravo, on sent que t'as hésité, mais tu l'as bien dit du premier coup, bravo.
Xbox 360 vers Xbox One.
Oh là oui, oh putain, le double combo.
Et du coup, en fait, le jeu est dispo maintenant en France. Bon, il y a eu quelques petits problèmes au départ, mais il est dispo et gratuit sur le Xbox Live.
Gratuit.
Ouais, gratuit direct.
Comme
ça.
Là, alors là, c'est-à-dire que le jeu en plus d'être rétrocompatible donc sur Xbox One, on peut aller sur le store de Microsoft et pas filer.
Jusqu'au 5 février, tu peux le récupérer.
Si j'avais pas déjà fini 4 fois, c'est ce que j'aurais fait, mais jusqu'au 5 février.
Ouais, jusqu'au 5 février, ouais.
Mais dis donc, mais c'est incroyable ça pour tous les gens qui ont jamais fait The Witcher 2. Il y en a parmi vous qui ont pas fait The Witcher 2.
Bah oui, moi.
C'est vrai ?
Moi j'ai fait que le début.
C'est vrai ?
Ouais.
Et le début, c'est parce qu'il y a de mieux, parce que c'est un peu balèze et un peu chiant.
Et j'ai abandonné à l'époque, et ce qui n'a pas du tout été le cas de The Witcher 3, que je trouve beaucoup plus réussi dans son entrée en matière.
D'accord. Camille ?
Ouais. Non ? Ouais, idem. Moi, Witcher 2, j'y avais déjà joué en fait la version améliorée sur PC.
C'est l'édition qui est sortie le même jour que la version 360. Hein.
Exact. D'ailleurs, à l'époque, j'avais énormément ramé avec mon ordinateur. Ça demandait énormément de configuration de fou furieux.
Moi, je me rappelle qu'il y avait un truc à décocher absolument. Sinon, effectivement, tu ne pouvais pas jouer à ce jeu. Il ramait, mais genre, c'était 2 images par seconde. Je ne sais plus comment s'appelle cette option, mais elle était abominable. Une histoire de buffer, quelque chose. Et ouais, ouais, il fallait aller sur les forums pour savoir que oui, non, faut surtout pas toucher à cette
option. De toute façon, elle était quand même pas très bien optimisée. C'était vraiment pas top. Donc,
Ouais, mais c'était un grand, grand jeu.
Mais c'était un grand jeu, effectivement.
En tout cas, un de mes jeux préférés. Donc jusqu'au 5 février.
Jusqu'au 5 février, ouais, on peut aller le télécharger, récupérer gratuitement et jouer comme des petits fous.
Bah ça, c'est du sacré oui.
Il
hein
avait déjà été. Mais là, c'était dans la liste des
Games with Gold.
Games with Gold,
ouais, ouais, en 2015, absolument. Mais là, c'est maintenant, c'est Xbox 360.
Et donc, rétro-compatible, donc sur Xbox One aussi.
Et bah dis donc, c'est une
par
bête
contre, c'est pas pratique de récupérer ces jeux Xbox 360 du Gold, mm-hmm, ou là par exemple, sur Xbox One, parce qu'en fait il faut que tu ailles sur la version web. Tu peux pas aller directement sur la console récupérer tes jeux 360.
Ah oui,
en fait,
ah, non. Tu vas aller sur Internet Explorer.
Ouais, après, donc tu utilises Internet Explorer depuis ta Xbox, ou alors tu le fais depuis ton PC, et à ce moment-là, comme par magie, il apparaît.
Et pas besoin
dans la liste
d'être
des jeux.
Abonné Xbox, Xbox Live Gold. Aussi, si je ne m'abuse.
Ah bah pour cette offre là non. C'est mais à l'époque c'était
fou,
hein. Ouais, oui, c'est vrai que c'est
c'est dingue, hein, t'as même pas besoin de t'abonner, un... t'arrives, bonjour, c'est gratos,
c'est un joli cadeau, ouais.
Pas bonjour, pas merci, tu prends la dernière virgule dans le frigo, enfin bon. Bref, avant de passer à The Witness, nous allons évidemment parler de fail, puisque la vie est aussi faite de fail. Et Camille, tu as un petit fail à nous faire part, et il s'agit de
Star Wars Battlefront. Alors gros ascenseur émotionnel pour les fans de Star Wars. Effectivement, la semaine dernière, donc c'était jeudi dernier, via une vidéo, EA Brésil avait annoncé qu'une mise à jour allait arriver très prochainement. Donc
la fameuse mise à jour de janvier qui est prévue depuis un petit moment.
Où dedans serait inclus une nouvelle map ainsi que des tenues pour Luke Skywalker et Leia.
Leia. Oui. Attention, Leia, c'est une chanson de Clapton. C'est pas la même chose.
Et mon gros fail, parce que quelques moments après, sur un Twitter du chargé des lumières de DICE, il déclare qu'il n'y aura pas de mise à jour, en fait, il y aura une mise à jour, mais uniquement avec des skins. Donc bon, gros ascension émotionnel, puisqu'on attendait tous une map. Et non, pas de map, on attendait tous une map Tatooine. Parce que bon, on avait pensé à un moment qu'il y aurait une map sur le palais de Jabba. Rien de ce côté-là. Bon, c'est une mauvaise nouvelle parce que, mais effectivement, c'est pas beaucoup chargé en map pour l'instant Star Wars Battlefront. Il y a que 4 planètes, c'est pas. Enfin, 5 avec le DLC, la bataille de Jakku, mais effectivement c'est pas énorme, mais franchement on espère que les choses vont changer.
Bah normalement oui, puisque ce même responsable des éclairages chez DICE l'a signalé après quelques tweets plus loin qu'il bossait sur d'autres maps, donc et qui seraient soit en DLC soit en mise à jour à l'avenir, donc ça devrait aller quand même.
Ouais, malheureusement, faudra, à mon avis, pour avoir accès à beaucoup de maps, il faudra être possesseur du Season Pass. Donc quand même débourser une sacrée somme.
50 euros, je crois.
Voilà, ouais, en plus du jeu. Je rappelle que quand même qu'il faut payer 110 euros à peu près pour avoir, en tout cas sur PC, pour avoir avoir accès au jeu plus le Season Pass, qui fait quand même énormément. Donc voilà, on attend de voir, mais en tout cas on espère que ça va arriver bientôt. Bon, déjà, il y a aussi un fail de ce côté-là, un double fail, on va dire.
Ouais.
Puisque le skin de Luke et de Leia, on pense que ça va être le skin de pilote de Luke qui aurait dû arriver il y a longtemps, qui était déjà présent dans Star Wars Battlefront 1 et 2, qui sont sortis il y a plusieurs années, et qui n'est pas ça dès le départ, dès le lancement. C'était pour moi un fail en tant que fan de Star Wars. Donc voilà. À ce niveau-là.
Très bien. Bon, moi, c'est pas très cool, mais bon.
Ouais, c'est pas très cool. Vraiment,
l'avenir nous dira s'il y aura pas d'autres choses intéressantes qui arriveront. Et bien, c'est le moment de passer au premier thème de cette semaine. Il y a que des jeux qu'on a testés, hein, donc comme ça, vous n'aurez pas à envisager qu'on parle d'autre chose. Ce n'est que du test cette semaine. Et le premier test.
Du jeu. Tu fais penser à Phil Spencer quand il a rattrapé le coup de TV.
Exactement. Et ce premier jeu.
Dans notre conférence du jour, on ne parlera que de jeux.
Voilà, tu as ton t-shirt, je sais pas,
Xbox en dessous. Bon.
Premier jeu dont nous pouvons vous parler, qui a été testé par l'ami Julo. Il
Tout
s'agit de The Witness,
ouais.
Le nouveau Jonathan Blow.
Ouais, alors Jonathan Blow, si ce nom ne vous dit rien, c'est le créateur de Braid. Braid, jeu culte du Xbox Live au départ, hein, qui sortait également sur PC, sur PS3, etc. Jeu casse-tête d'énigmes, hein, avec un petit personnage, un peu plateforme énigme, et qui nous avait beaucoup, beaucoup plu, ainsi qu'à la planète entière. Et là, donc, retour avec avec un deuxième jeu, The Witness, pour Jonathan Blow, qui avait quand même annoncé le jeu en 2009, hein, un an après Braid. Hein, c'était il y a bien longtemps, il y a 6 ans et demi. Et finalement, le voilà qui arrive après avoir été bichonné pendant des mois et donc des années. C'est à nouveau, encore une fois, de la réflexion, hein, un jeu de casse-tête, hein, vraiment encore plus que Braid d'ailleurs, parce que là il n'y a plus vraiment de plateforme, mm-hmm. mais plutôt de l'exploration d'une grande île avec plein de zones différentes et dans laquelle on peut se balader librement et passer de casse-tête en casse-tête pour débloquer petit à petit différentes zones de cette île et progresser donc dans l'histoire qui ne vous est pas contée par une voix off ni même par des personnages qu'on va croiser, parce qu'on ne croise personne si ce n'est des statues d'êtres humains dans certaines situations. Alors on ne sait pas s'ils ont été statufiés ou si c'est vraiment des statues. Dans tous les cas, on le découvre vraiment
c'est bizarre,
petit à petit, on va dire, mais sans explication aucune. D'ailleurs, il n'y a aucune explication non plus sur les puzzles. Mmh. On est lâché là-dedans. Et on se démerde.
D'accord.
Mais littéralement.
Ça me fait penser, pour les premiums qui regardent le podcast en vidéo, moi le style visuel me fait penser beaucoup à No Man's Sky, mais par contre le concept en lui-même, j'ai l'impression de revoir Talos Principle, c'est ça ?
Ouais, effectivement on peut le dire comme ça. Hein, c'est vraiment un mélange des deux pour le design d'une part et le gameplay d'autre part.
Ça consiste en quoi ces petites énigmes là ? C'est du tangram, taquin, c'est...
Alors je te fais le résumé complet, on va dire. Donc tu commences cette aventure dans un couloir sombre et étroit, duquel tu te sors avec un petit panneau dans lequel tu as juste à déplacer une ligne de l'entrée à la sortie du panneau. L'entrée, c'est un petit rond, la sortie, un petit trait, et il n'y a pas de puzzle particulier, mais simplement comme un interrupteur, et une porte s'ouvre au bout de ce couloir très long, et tu arrives dans une île que tu ne connais pas, dans la peau d'un personnage qui a priori ne sait pas trop ce qu'il fait là ni pourquoi. Et dans cette île, tu peux te balader totalement librement. D'accord. Et il y a plein de zones très très différentes les unes des autres, vraiment dans cette île qu'on peut donc explorer à pied et faire le tour assez rapidement, je sais pas, en 10-15 minutes. Tu vas passer de zones totalement différentes les unes des autres, une zone un petit peu genre le désert, la jungle, la forêt, le temple, la ruine du château, etc., etc., la montagne au milieu.
D'accord.
Et
est-ce
dans chacune
croises,
de ces zones,
est-ce que tu croises des ours blancs et des drôles de,
alors,
de nuages noirs aussi?
Il y a vraiment une ambiance à la Lost. Tu fais bien de dire ça, parce que t'as une forme de solitude, mais l'île est presque un personnage à part entière. Tu sens que elle cache pas mal de mystères.
Il y a des forces en action peut-être,
et que, alors pas vraiment, mais disons des mécanismes en action. Pardon, qui semblent tous reliés les uns aux autres et qui te permettent, quand tu finis d'en débloquer un, d'aller vers un autre, etc. Même si tu peux te balader totalement librement. Et tu vas donc croiser tous ces petits panneaux qui ressemblent à l'interrupteur du début, mais de plus en plus complexes. Alors, c'est des grilles. Et sur ces grilles, il va y avoir des motifs. Et en fonction de ces motifs, tu vas devoir te casser la tête pour essayer de trouver le bon chemin. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin au sein de cette grille, ce qui va te permettre d'allumer un autre panneau un peu plus loin, puis un autre, puis un autre. Et finalement, zone après zone dans cette île, de débloquer des espèces de lasers qui vont se pointer vers la montagne centrale. Pour quelle raison, ça on sait pas trop.
Il faut pas qu'on le dise là, parce qu'on a de spoiler.
De toute façon on ne sait pas vraiment, et il faut progresser pour
d'accord. Et c'est pas ce système justement d'avancer à chaque fois vers un petit panneau avec un puzzle, c'est pas... Ça ne se répète pas, c'est pas toujours les mêmes mécanismes.
Pour vraiment décrire les qualités de The Witness, il faut parler d'abord des puzzles quand même, mais effectivement il y a une partie exploration, je vais y venir juste après. Mais en gros, ce qui est fantastique dans la série de puzzles qui nous est proposée, c'est que c'est très difficile. Honnêtement, c'est super dur, mais c'est pas frustrant. C'est jamais frustrant parce que c'est d'une logique implacable. Et en fait, on t'introduit des nouvelles mécaniques de panneaux petit à petit, et à chaque fois qu'on te l'introduit, on te l'introduit de manière assez simple pour que toi-même, sans indication écrite ni sonore...
Moi j'aime bien quand tu me dis qu'on te l'introduit de manière assez simple, ça me paraît limpide.
Tu m'as perdu. Ouais, ça, tu fait, m'as déstabilisé. Ouais. Donc, voilà. Donc, on te présente les mécaniques de manière suggérée, en fait, à travers des puzzles très simples. Mm. Et ils vont se complexifier petit à petit une fois que tu vas commencer à comprendre la mécanique qui t'est imposée. Et ce qui est génial, c'est que finalement, je disais que c'était pas frustrant parce que contrairement à un Myst, finalement, c'est un peu Myst 2016, notre ami The Witness. Vraiment, c'est un peu la même ambiance, une île déserte, solitude, énigme, etc. Sauf que c'est beaucoup moins frustrant tout en étant aussi difficile. En fait, t'as vraiment toutes les cartes en main pour comprendre ce que tu dois faire. Tu vois, t'es pas paumé en disant « Allez, je vais tester ça ». Tu sais globalement ce que tu dois faire. Et tu dois apprendre à le faire et ensuite le développer en restant bloqué parfois assez longtemps sur une énigme, mais en sachant quelle est ta piste de réflexion. Et donc tu peux t'en prendre qu'à toi-même et tu finis toujours par progresser. Et ce qui est génial, et là c'est l'aspect exploration sur cette île gigantesque, c'est qu'on te dit pas d'aller là ou là. On te dit pas.
On te
fait pas comprendre un ordre ou quoi. On te dit pas, réussis cette zone, comme ça tu pourras ouvrir la porte qui va dans celle-là. Non, c'est un peu plus libre que ça. Et quelque part, pendant en tout cas toute une très très grande partie du jeu, tu peux, si tu bloques sur une série d'énigmes, dire tiens, je vais me balader. Et de toute façon, t'as envie de te balader parce qu'il y a un côté tellement mystérieux sur cette île que t'as envie d'aller voir à droite, à gauche, et que tu fais bien de le faire parce que parfois ça te fait comprendre certains puzzles, te permettent de revenir sur un autre sur lequel t'avais bloqué et te débloquer parce que t'as développé une certaine forme de logique dans ton esprit et que t'as appris d'une autre énigme, et ce qui va te permettre d'en finir une autre. Et donc, il y a une exploration solitaire de cette île qui se fait sans musique mais avec des bruitages. Tu vois ton ombre aussi, elle est assez surprenamment bien faite, ton ombre. Et le bruit de tes pas sur toutes les différentes surfaces qu'il y a dans le jeu, qui est très réaliste. Et puis les sons environnants, t'as des espèces de totems électromagnétiques dont tu connais pas exactement la fonction mais qui développent un bruit. T'as des petits sons bizarres quand tu t'approches d'un arbre qui a l'air d'être un arbre un peu avec des pouvoirs. Enfin, il y a un vrai mystère et un vrai sens de l'aventure par l'exploration qui est assez génial et qui t'immerge totalement. Écoute, moi j'ai passé tout le week-end dessus, je sais pas combien d'heures, j'ai pas vu passer le temps. Vraiment, je relevais le nez, il s'était passé trois plombes, j'avais l'impression que j'avais joué 10 minutes. C'est hyper enivrant et pas frustrant. C'est ça la grande qualité du jeu, c'est que c'est un jeu de casse-tête, hein, faut pas s'attendre à autre chose, hein, c'est une série de casse-têtes basée sur un principe de grille qui va être dérivé de mille et une manières. L'environnement en lui-même, mais sans vouloir vous en dire trop, a son importance aussi, parfois directement dans les puzzles. Et voilà, je crois que c'est le meilleur jeu de puzzle auquel j'ai joué de ma vie. Hein.
Ah, carrément.
Ouais. Moi, Braid, j'avais aimé Braid, mais tu vois, j'avais été finalement...
Même devant un Layton, par exemple. Un Layton qui avait énormément de puzzles intelligents, de casse-têtes géniaux.
Ouais, mais là, il y a une ambiance, une atmosphère que j'adore vraiment. Et
devant
un
Punch Over sur Super Nintendo, mais c'est incroyable.
Et un sens du défi et du surpassement de soi-même. Mm. Qui est hyper bon, quoi. Voilà,
d'accord.
Tout simplement.
Donc, si pour résumer et pour reprendre une vanne d'un certain Julien Chiez, on peut dire que Jonathan Blow a fait le job.
Exactement, il a fait le job.
Et vous, chez vous, si vous vous rappelez dans quel podcast Julien avait placé cette vanne.
Bon, je pense qu'elle a été placée 15 000 fois, hein, celle-là.
Ah, je me rappelle d'une fois en particulier où c'était lui qui l'avait faite. Je sais que j'étais dedans et c'était navrant. Voilà. Y a pas d'autres mots, mais en tout cas, c'était l'occasion de la sortir.
Ça me fait penser en voyant les images qu'il y a parfois même des puzzles de grandeur nature. C'est-à-dire que c'est des grilles qui parfois.
Qui sont au sol.
Ça peut arriver. Il y a vraiment mille et une manières de les. Ce qui est dingue, c'est que. Il y a un seul principe, ce principe de grille, mais c'est pas du tout répétitif. D'accord. C'est quand même fou. Et je comprends qu'on puisse avoir cette impression. Traz est passé derrière moi pendant que je jouais tout à l'heure. Il a dit attends, il y a que des puzzles avec des riz comme ça qui suivent les uns après les autres.
Il
a
constaté, oh,
pff, c'est nul, etc.
Comme à chaque
fois. Ouais, mais non, mais il y a le côté. T'es enfermé sur cette île, t'essayes de la comprendre dans une atmosphère assez géniale. Visuellement, je trouve ça magnifique. Tu le disais tout à l'heure, ça fait penser un petit peu à No Man's Sky, et c'est tout à fait ça, graphiquement, hein, bien sûr. C'est-à-dire que y a, dans la modélisation de certaines zones, je sais pas, les rochers, ce genre de choses, c'est un peu coupé à la serpe. Et puis, tu as des textures duveteuses sur les feuilles d'arbres, la végétation, même le sol, etc. Et c'est extrêmement coloré, extrêmement varié. C'est vraiment une petite île qui paraît presque pas naturelle, parce que je te dis, tu as une zone désertique, une zone jungle, etc. Mais les transitions de l'une à l'autre se font bien, et surtout ça pète de couleurs et c'est magnifique. Il était vraiment immergé dans une atmosphère un peu. Vous avez joué à Myst à l'époque
longtemps.
Sur PC, Myst était vraiment, elle avait une âme cette île, quoi. Un côté Jules Verne, etc. Là c'est pas du tout le même univers, mais t'as ce même sentiment que t'es totalement seul et en même temps pas totalement, parce que t'es sur cette île qui semble habité dans tous les sens du terme, quoi. Voilà. Donc
à recommander, comme on dit sur eBay.
Voilà. Moi qui ne suis pas forcément à la base
quelqu'un d'intelligent,
un énorme fan, merci, c'est gentil. Un énorme fan de jeux de casse-tête.
Ouais. Hein,
honnêtement, je serais peut-être passé à côté si j'avais pas eu à faire le test. Je regrette pas de l'avoir fait, parce que ça c'est une expérience vraiment super marquante. Voilà.
Très bien, c'est quelque chose qui... C'est un jeu qui vous intéresse, vous de votre côté, Rami, tiens, pour commencer. Parce que c'est ton genre.
Un petit peu, surtout parce que l'univers a l'air de m'attirer un peu, mais c'est vrai qu'après les jeux où il y a des. Dès qu'il faut réfléchir un peu, c'est vrai que moi je suis un bourrin de base, donc dès qu'il faut réfléchir.
Non, moi je me souviens pas de toi du tout à MGS5 en train de foncer dans le tas, mais.
Donc c'est vrai que dès qu'il faut réfléchir un peu, dès qu'il faut se casser la tête, moi ça me. Je sors un peu du trip. Donc c'est vrai que je pense pas que ça serait un jeu que je ferais honnêtement. Donc,
D'accord. Et Camille ?
Alors moi, je suis ça et j'attends ça énormément. Je vais me le procurer sur PC, fidèle à moi-même. Mais ouais, j'adore cette ambiance très onirique et je suis très amateur de Myst-like, donc pour moi, ce jeu, clairement, c'est un must-have, quoi.
Bah, ça tombe bien parce qu'en plus, sur PC, il y aura une fonctionnalité que n'aura pas la PlayStation 4, et je ne pense pas non plus la Xbox One et iOS, qui auront droit à leur version un peu plus tard, c'est...
Réalité virtuelle.
Et oui, puisque Jonathan Blow a confirmé qu'ils n'avaient pas eu l'occasion, ou en tout cas ils avaient commencé le développement beaucoup trop tôt pour envisager un portage sur PlayStation VR, mais par contre Oculus, HTC Vive, etc. ça devrait aller, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment.
En tout cas, ce que je peux vous dire...
Et est-ce que toi tu penses justement, Julo, tu vois, laisse-moi le temps de faire mes transitions. Voilà, tous tranquillement. Non mais justement, est-ce que tu penses que c'est un jeu qui conviendrait au PlayStation VR, enfin au PlayStation VR, à la réalité virtuelle de manière générale, pardon?
Totalement.
Tu vois bien jouer à Oculus Rift.
Je pense que ça ne va rien apporter en termes de gameplay, mais... comme je te disais, l'atmosphère qui règne dans les parties que tu fais de The Witness, grâce à cette île, ces petits bruitages et ce côté mystérieux, est magnifique, je le répète, parce que ça a beau être assez simple graphiquement, c'est très beau et très réussi esthétiquement, et il y a une je sais pas comment dire, tu sais, des fois tu ressens que les modélisations sont pleines, je sais pas comment te dire, ça ressemble pas juste à une carcasse, on a l'impression que les pierres sont pleines, etc. Enfin, je sais pas comment dire,
c'est quelque chose de solide, quoi.
Solide,
vraiment.
Ouais.
Solide.
Solide, la putain, votre.
Voilà, exactement.
En réalité virtuelle, le trip risque d'être encore plus génial, parce que vraiment, je te dis, on est totalement bercé par cette atmosphère qui est hyper réussie, et cette île qui est un personnage à part entière. Être vraiment totalement immergé dedans, je suis sûr que ça apporte encore un petit plus à la partie, quoi. Voilà.
Ok, très bien. Bah écoute,
ça apportera.
Je pense qu'on a tous compris. Donc disponible sur PC et PS4 au prix exceptionnel, Maryse, de
C'est 40€, je crois. Un peu moins, parce que contrairement à pas mal de jeux, il fait pas une conversion magique. Je crois que c'est 39,99 ou 39,90, et c'est pas 39€.
Ça fait 34
et quelques. C'est 36 quelque chose. Ouais. Enfin,
36,99.
Voilà. 36,99. Bah voilà, ça change des conversions magiques habituelles. Et bah écoute, merci Julo. On va passer au deuxième thème, puisque c'est encore un jeu qui a été testé. Alors, vous entendez une petite musique. Il paraît. il paraît que c'est quelqu'un qui a failli être président d'Haïti, enfin qui a voulu être président d'Haïti, et ancien membre du groupe Les Fugees, qui est à l'origine de la production sonore de ce jeu qui s'appelle
Lost in Harmony.
Rami, ça s'appelle Lost in Harmony, ouais. Et c'est j'entends là, les petites notes de piano, ça me fait penser à un jeu qui s'appelle Soldat Inconnu. Il n'y aurait pas un rapport entre les deux? Ils ne seraient pas cousins?
Ouais, ils seraient vraiment, ouais, ils sont vraiment cousins, ouais, parce que c'est Johan Faniz, en fait, ancien d'Ubisoft, qui a co-créateur de Soldat Inconnu avec Paul Tumler, art director chez Ubisoft, qui est parti il y a un peu plus d'un an, et qui a monté sa propre boîte, DigixArt.
Ouais.
Pour faire, pour développer le jeu Lost in Harmony.
Yann Faniz, à qui on doit normalement aussi, si je me rappelle, le bouet des lapins crétins.
Ouais,
je
ouais,
crois.
Oui. Ouais.
Il en me cas, semble. Bah, en tout cas, c'est, voilà.
Tout est dans l'interview qu'on avait fait l'année dernière sur Gameblog.
Absolument.
Qui est toujours dispo.
Vous pouvez toujours le retrouver.
Voilà. Et bah, du coup, c'est un jeu qui m'a tellement touché en fait. Et je m'y attendais tellement pas. En faisant le test, je me disais que c'est juste un.
Alors justement, explique-nous, ça se joue sur quoi?
Parce que quand
c'est...
on voit les images, on peut pas imaginer que ça peut être un jeu émotionnel, etc.
Bah, et pourtant.
Sur quoi ça se joue? Comment ça se joue? Et, ça parle de quoi?
C'est sur mobile en fait, c'est sur iOS, iPad, etc. Pour l'instant, juste sur iOS en tout cas.
D'accord.
Et c'est un runner.
Mais un runner vu comme
vu de face, ouais.
Vu de face, ouais.
comme les phases de Crash Bandicoot,
où les personnages roulent vers l'écran, quoi.
Et c'est ça, ils roulent vers l'écran, et du coup, bah en fait, on a des, c'est un jeu de rythme aussi en même temps, parce qu'on a des petites orbes qui apparaissent à l'écran, et on doit les taper, et du coup, c'est en fait ça rythme la musique en même temps.
D'ailleurs, j'ai cité Crash Bandicoot, mais je peux citer Soldat Inconnu, c'était les phases en taco qui étaient comme ça aussi.
Ouais, et du coup, il y a même des petites références à Soldat Inconnu. Dans l'environnement, parce que l'environnement est super varié. Et en fait, du coup, ça nous fait suivre l'histoire de Kaito et Aya, deux personnages qui sont vraiment très connectés et qui partagent, entre guillemets, les mêmes rêves. Donc du coup, en fait, on a 13 rêves dans le jeu. Et c'est à travers ces rêves qu'on retrouve les deux personnages qui sont à bord d'un skate et qui, du coup, voyagent tout au long de l'aventure. Et en fait, une fois qu'on a passé le premier rêve, on apprend que via Kaito, qui a son portable avec lui et qui envoie des SMS à Aya, qui est en fait à l'hôpital. Et bon, elle est très malade, etc. Je dirais pas ce qui se passe, mais à défaut de pouvoir être tous les deux réunis pour de vrai,
ils voyagent ensemble dans leurs rêves. Ça m'appelle un peu Clémentine, le dessin animé le plus dramatiquement triste.
J'étais amoureux de Clémentine quand j'étais petit.
Quoi?
J'étais amoureux de Clémentine.
J'étais amoureux du chat, alors. C'est ça que tu veux dire, le petit chat qui vole avec sa queue qui fait toupie, là. Non, en fait, c'est pas vrai. Mais bon, fallait que je dise un truc. Bref.
Et du coup, c'est une histoire vraiment passionnante à suivre pendant 13 rêves. Alors, tout est développé au niveau des personnages. On apprend vraiment à pourquoi ils se parlent, ce qui est entre eux deux, en fait, et ce qui se passe pour la petite Aya. Et du coup, on voyage à travers ses rêves et il y a plein d'environnements différents et c'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. On peut être dans la jungle, par exemple dans l'espace, etc. Donc du coup, c'est plein de petites choses qui sont vraiment très cool. Et même au niveau du rythme, au niveau des musiques, il y a eu un boulot extraordinaire. Les musiques sont vraiment excellentes.
Mais le gameplay est sympa. Enfin,
le gameplay est vraiment cool.
En dehors de l'histoire et des musiques, tu prends du plaisir à jouer.
C'est juste droite, gauche et tu sautes, quoi.
Tu vas de droite de gauche à droite et
Sur trois lignes différentes, c'est ça? Milieu, droite, gauche.
Tout à gauche, le milieu et tout à droite.
D'accord.
Et donc du coup, ça varie entre les trois. Et en fait, parfois, t'as des choses qui arrivent derrière toi et donc du coup, tu peux esquiver. Et ce qui est, moi, ce que je trouve un peu dommageable, c'est ce qui vient. Comme tu vois tes personnages.
Ton micro, attention.
Ouais. Donc du coup, tu vois des choses qui arrivent devant toi et t'as le feedback, en fait, t'as une flèche te montrant que des choses arrivent devant toi. Sauf que parfois, quand t'as le doigt, en fait, quand t'as le doigt sur l'écran, bah tu vois pas forcément le feedback visuel, le petit truc où tu dis que le truc va arriver. Donc du coup, tu te le manges et tu fais mais je l'avais pas vu aussi, j'avais mon doigt. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des. Je trouve qu'en termes de gameplay, il y a peut-être parfois, il y a quand même un peu de problèmes là-dessus pour savoir un peu, pour jauger un peu, sachant qu'en plus t'as deux modes de difficulté, le mode normal et difficile. Est difficile, mais c'est beaucoup trop difficile. Et le mode normal, ça va, il y a eu des phases au moment où c'était plutôt hardcore, mais pour l'ensemble c'était vraiment ça allait, sachant qu'il faut aussi avoir un score de 50% pour débloquer un niveau, en fait, pour débloquer le prochain niveau. Et pour avoir ces 50%, il faut se faire toucher le moins de fois possible et il faut réussir, en fait, à toucher les orbes en rythme qui apparaissent à l'écran et qui apparaissent en rythme avec la musique, en fait.
D'accord, en fait, c'est un mélange d'amplitude frequency avec du runner, en fait.
C'est ça, exact. Ouais.
D'accord.
Ouais, et c'est vraiment très cool à jouer. sachant que.
Et c'est triste.
Ouais, c'est assez triste. Ouais. J'ai lâché ma petite larme à la fin. Mais
qu'est-ce qui se passe à la fin ?
Je vais pas le dire.
Bon, tu me diras après.
Je te dirai tout à l'heure. Ouais. Mais il y a aussi d'autres choses dans le sens où, en plus du jeu, tu peux aussi débloquer des petits trucs esthétiques pour ton personnage, des vêtements, un nouveau casque, un nouveau chapeau. Mm-hmm. Soit tu le débloques en faisant les différents objectifs du jeu, soit tu les achètes directement. Bon, ça varie entre 99 centimes et un peu plus d'un euro. Et ouais, tu peux débloquer un nouveau casque, des nouveaux t-shirts, etc. Tu peux aussi faire ta propre musique, tes propres niveaux en plaçant.
Ah, il y a un éditeur de niveaux.
Un petit éditeur où tu veux te placer en suivant la musique que tu as choisie, les orbes à placer, etc. Là où tu vas frapper en
Alors,
fonction.
Alors tu peux te servir de ta propre tracklist qui est sur ton téléphone ou ton iPad. Ah, mais ça peut être bien ça.
Pour l'instant, je vais plus trop en télécharger parce que ça fonctionnait pas. Il y a un peu des petits problèmes de réseau de leur côté. À part ça, il y a aussi la possibilité de débloquer une nouvelle histoire, un nouvel arc narratif qui normalement devrait arriver une fois qu'il y a. Que le seuil des 100 000 joueurs sera atteint en fait.
D'accord.
Pour l'instant, on en a 675, donc bon, on en est encore loin. Mais une fois le palier de 100 000 joueurs atteint, on aura normalement un nouveau.
Mais c'est un jeu qui mérite, si on t'écoute, c'est un jeu qui mériterait de le dépasser ces 100 000 joueurs.
Ah oui, clairement. Ouais. Franchement, ouais. Il le mérite amplement. Et franchement, il est très très cool et je m'attendais vraiment pas à ce petit jeu, sachant qu'il a été fait par une équipe de 10 personnes. Entre Johan Faniz, Anne-Laure Faniz aussi, Bruno Viss, Cédric Roux et plein d'autres personnes. Donc du coup, c'est vrai que pour un petit jeu comme ça, de Stackabilla, en plus avec les mélodies qu'on peut entendre dans le jeu, avec le rythme, etc. C'est vraiment très cool et j'ai passé un excellent moment en tout cas avec ce jeu.
D'accord, bah moi tu m'as convaincu. C'est
3,99€. 3,99€, ouais.
Bon, c'est pas très très cher, Julo. Ce serait le genre
si,
de
c'est
jeu...
cher.
Ok.
Un euro est un euro.
Oh, ok, d'accord. C'est un genre de jeu qui te
bah ouais,
toi,
ouais,
qui
bah
en tout
dans
cas, les jeux de rythme.
Moi, ce que ça m'intrigue, bah, j'adore les jeux de rythme. Mais il n'y a pas de bon jeu de rythme sans bonne musique. A priori, elles sont bien en plus. Et puis, je suis assez intrigué par le côté narratif, quoi, qui vient s'ajouter à un jeu qui appartient à un genre d'habitude très peu narratif, quoi. Donc. Je vais peut-être tester sur le téléphone de Rami et puis me le procurer également.
Camille.
Mais pour ça, il faudra que j'arrête de jouer à The Witness.
Moi,
quoi.
Pas ta cam.
Pas du tout. Jeu mobile, mais si c'est un jeu touchant, comme le dit Rami, pourquoi pas.
Il n'est pas prévu sur d'autres supports que.
Pas pour
justement.
Le moment. J'en ai D'accord. pas entendu parler. J'espère en tout cas que ça puisse être, qu'il puisse toucher le plus
grand monde possible.
Exact. Ouais.
D'accord. À voir, alors.
En tout cas, il fait le job comme Jonathan.
Voilà, exactement. Comme Jonathan Blow.
Exact.
Enfin bon, bref, je vais t'expliquer la vanne, j'ai l'impression que tu l'as pas comprise en fait, c'est pas grave. Non, mais si, t'as le droit, hein, t'as le droit. Bon, on était un petit peu dans le rêve et la poésie là pour les deux premiers jeux testés cette semaine.
Il est temps de mettre un coup de canon là-dedans.
Voilà, exactement, on va mettre un petit coup de grosse Bertha dans l'affaire. Ça va parler un peu Panzer avec Camille, puisqu'on va parler d'adaptation de World of Tanks sur PS4.
Effectivement, j'ai pu réaliser le test de World of Tanks sur PS4 et ma foi, c'est plus qu'un portage, c'est vraiment une vraie adaptation et ça, c'est vraiment sympathique de ce côté-là.
On peut faire un petit résumé d'ailleurs de tout ce qui est wargaming parce que c'est pas nous qu'allons parler, on n'est pas des gros spécialistes de wargaming avec. Ils ont trois licences, c'est ça
voilà,
du côté
ils ont
wargaming.
Trois grosses licences principales, donc ils ont World of Tanks. Donc, qu'on va vous parler là, World of Warship, qui est sorti récemment, le 19 novembre, et enfin World of Warplane, donc, qui est sorti en 2013, le 12 novembre plus précisément.
Mais c'est World of Tanks qui rencontre le plus
Mais
gros
voilà,
succès.
Voilà, c'est ça. C'est
le premier jeu.
C'est le premier jeu, et c'est le jeu qui a eu le plus de joueurs le plus rapidement, et c'est celui qui rencontre encore le plus de succès. Malgré tout, World of Warship s'annonce vraiment très bon à ce niveau-là aussi, et le niveau contenu, suivi contenu, va être très bon. Et là, c'est pareil, on va, dans les années qui suivent, on va encore entendre beaucoup parler, que ce soit pour niveau contenu, niveau map, tout.
Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres joueurs que des Russes qui jouent à ça parce
alors,
qu'on
oui,
sait que c'est quand même la population russe qui est énormément accaparée par les World of quelque
voilà.
chose.
Alors déjà il faut savoir que c'est édité et développé par Wargaming, donc Wargaming c'est une société biélorusse donc là-bas
qui fait les meilleures soirées de la Gamescom paraît-il.
Alors,
j'ai
c'est,
encore jamais
oui,
fait
Wargaming.net parce que c'est ça le nom de la marque finalement. Ils sont très présents à la Gamescom qui est un salon évidemment évidemment orienté PC parce que c'est en Allemagne et qu'en Allemagne on est très PC au niveau jeux vidéo. Et effectivement, et Wargaming profite toujours de ce salon pour mettre les petits plats dans les grands et faire des stands gigantesques, mettre des nanas à moitié vêtues sur leur stand avec des gros obus et des mitraillettes.
Voilà.
Et organiser effectivement la plus grande soirée de la plus grande soirée professionnelle.
Tu en avais vécu une ou deux, je ne sais
pas.
Bah
non, mais par exemple la dernière fois ils avaient invité Justice, quoi, je sais pas si t'imagines. Ouais. Voilà,
ça c'était en 2014.
Petit pas dans les grands, quoi.
Et Justice a donc fait son concert privé à l'occasion de la Gamescom pour la soirée Wargaming, et en première partie avant Justice il y avait Breakbot, quoi. Donc voilà, ce genre d'invités qu'ils ont. Et oui, c'est une boîte qui est extrêmement riche. C'est ça qu'il faut dire, c'est parce que tu parlais du public russe, je pense que c'est leur socle qui a permis au jeu de se développer très vite et de gagner très vite beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, et l'arrivée de World of Tanks d'abord sur Xbox One, maintenant sur PS4.
Sur 360 hein, d'abord.
Sur 360, t'as raison. Xbox One et maintenant PS4, ça montre bien que leur licence ne plaît pas que à ce socle de fans russes et que ça... Ils ont envahi le monde avec leur tank et y compris le monde des consoles maintenant.
Alors justement, si on doit décrire le gameplay, comment se joue exactement à World of Tanks, c'est quoi exactement?
Alors déjà, pour récapitulatif, donc World of Tanks c'est un free-to-play et non pas un pay-to-win, ce qui est quand même une différence notable, puisqu'on sent pas la lourdeur de certains free-to-play où on est poussé à acheter sans cesse pour avoir... des bonus, etc., où on se dit ah tiens, l'ennemi il a un truc puissant, à mon avis il a déboursé de l'argent pour l'avoir. On ressent pas vraiment ça.
D'accord, c'est le skill qui parle d'abord.
Voilà, le skill qui parle. Malgré tout, il y a quand même une boutique assez fournie où on peut notamment acheter des tanks, des bonus comme des bonus de vitesse, de réparation, etc. En fait, donc World of Tanks sur PS4, il se décline exactement de la même manière que sur PC, à ceci près que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un simple portage, c'est une adaptation. Donc les maps, évidemment, le gameplay a été tout a été adapté pour la console. Donc
mais alors
maps,
c'est quoi, c'est un jeu d'action en temps réel on joue en ligne.
Voilà, c'est une simulation en fait de tank en ligne, donc uniquement multijoueur. Bon là pour PS4 ils ont fait l'effort de rajouter un mini mode solo, mais c'est même pas ça, c'est un mode entraînement en fait où on se bat rapidement contre des bots qui sont vraiment cons.
Et c'est combien contre combien en général, maximum?
Le maximum c'est 15 contre 15 il me semble. Et effectivement ça envoie du lourd, mais après on a pas forcément cette impression de participer non plus à une grande bataille, parce que c'est les maps sont un peu plus petites que
sur
PC.
C'est un peu bourrin quand même.
Oui, c'est très bourrin, on dit une simulation, mais c'est pas non plus
c'est pas vraiment de la simu.
Voilà, c'est pas Arma 3 hein, à ce niveau là c'est de la simulation bourrine, on tire dans le tas, mais attention il y a quand même un peu de tactique. Alors il y a différentes choses, différents types de chars. Alors il y a les chars légers, les chars moyens, les chars lourds, les chasseurs de chars, etc. Et chacune des classes, en fait, ça fonctionne un peu comme dans n'importe quel jeu. Chacune des classes a une particularité, voilà. Donc par exemple le char léger, ça sera pour la reconnaissance par exemple. Donc il faut adapter son gameplay par rapport à ça. Il va falloir être en amont, être dans les premiers à avancer sur la map, mais bien se camoufler derrière les rochers, derrière les arbres,
mais
etc.
Du coup le jeu en équipe est favorisé? Alors,
Le bon jeu en équipe, oui. Enfin il est pas favorisé dans le sens où on gagne pas spécialement de bonus comme dans un Battlefield.
Non mais tu gagnes plus. Enfin je veux dire les gens organisés gagnent plus. Mieux.
Oui, c'est
plus
ça.
Vite.
Voilà. Si on est organisé, c'est sûr. Si on a une team complète de mecs derrière au micro et tout, ils vont forcément gagner. Dans le sens où, voilà, c'est derrière, il y a quand même. Si t'élabores une tactique, en fait, tu gagnes. Mais malheureusement, la plupart du temps, on se retrouve avec des randoms sur le.
Mais par exemple, c'est un jeu qui compte sur la scène e-sport ou pas du tout?
Sur la scène e-sport, oui, de plus en plus. De plus en plus.
Parce que pour qu'un jeu fonctionne sur la scène e-sport, il faut qu'il soit peu stratégique.
Voilà, c'est ça.
Et surtout en équipe, quoi.
Il est stratégique à partir du moment où on peut parler avec les gens. Donc, on peut parler avec des gens qu'on connaît bien. Mais là, en ce moment, ceux qui y jouent peuvent le remarquer, il y a énormément de Russes. Comme c'est étonnant. Et on entend souvent des Russes râler quand on leur tire dessus. C'est assez amusant à ce niveau-là. Mais c'est un peu chiant d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de couper le micro. Ce qui se fait que souvent.
Ah bon ?
On se retrouve.
Sur PC comme sur PS4 ?
Sur PC si on peut, il me semble. Mais sur PS4, pour l'instant, apparemment, c'est pas ajouté. Effectivement, c'est un peu casse-pied. On se retrouve avec des gens qui parlent en arrière-fond. même des fois avec leurs enfants, etc. Donc pour se concentrer, c'est pas forcément top, mais ouais. Voilà, donc bon, c'est une bonne adaptation. Hein,
Ces gens qui ont des enfants, non, mais...
Non, c'est une bonne adaptation. Après, c'est sûr que pour un vieux roublard qui a joué à la version PC.
Mais justement, alors tu disais que c'est pas un portage, mais plus une adaptation. C'est-à-dire que le jeu a été raboté, genre les maps sont plus petites, les trucs moins nombreux, les machins, c'est une version moins.
Alors en fait, pour ceux qu'on peut comparer la version PC et PS4. Non, c'est pas une version rabotée, c'est une version adaptée vraiment, c'est-à-dire au niveau des maps, elles sont un peu plus petites déjà.
Mais ça peut pas être une bonne chose, si.
Il y a peut-être moins de joueurs que sur PC simultanément aussi.
En fait, le truc, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup moins de joueurs que sur PC. Le contenu n'est pas le même non plus. Il est plus léger pour l'instant. Donc d'après l'éditeur, le jeu va recevoir une grosse mise à jour par mois, donc quand même un beau suivi, mais voilà, il va falloir un peu de temps quand même pour rattraper la version PC qui est quand même assez garnie. Donc pour l'instant il y a 130 chars.
Oui, parce que quand on sort un jeu comme ça, c'est important. Nintendo l'a très bien fait avec Splatoon par exemple, c'est
de l'entretenir.
Oui, d'entretenir la communauté en lui jetant petit à petit des bananes. Donc des nouveaux des nouveaux tanks, etc. Et comme le jeu est sorti depuis longtemps sur PC, si d'un seul coup tu mets tout directement dans la version PS4, t'arriveras pas à entretenir ta communauté, quoi.
Bah d'autant plus que.
Mais c'est quand même un peu une version rabotée.
Pour l'instant, mais
qu'est-ce que tu veux lui faire dire ? Tu veux lui dire que c'est de la merde, c'est ça ?
Non, mais
c'est ça que tu veux entendre dire, c'est ça ?
En gros, si t'as un PC et une PS4, il y a absolument
pour l'instant,
aucune
non, mais
raison de.
En fait, franchement, la version PS4 s'adresse vraiment aux joueurs qui n'ont pas touché au jeu sur PC. Sinon, c'est vrai que sur PC, ceux qui ont joué, ça n'a aucun intérêt. Même sur Xbox 360 et One, ça n'a aucun intérêt.
Mais est-ce qu'ils doivent être jaloux de leurs copains, quoi, hein, qui jouent sur PC, un petit peu quand même.
En fait, la différence notable aussi, c'est le niveau graphique sur PS4. Et étrangement, elle est un peu plus belle que sur PC.
Ah bon ?
Ouais, elle est très bien optimisée même d'ailleurs. On est en 1080p et en 30 fps. Bon, pas 60 malheureusement, mais voilà, c'est déjà pas mal. Et c'est très beau, c'est très fin, c'est très bien travaillé, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, si on joue déjà sur PC, ça n'a aucun intérêt. Donc sur PS4, voilà, donc c'est pas une version rabotée, non. Les mises à jour vont rajouter du contenu petit à petit, mais faut noter aussi quelque chose, c'est que... ils ont désiré ne pas mettre moins de contenu que sur PC parce que justement le contenu sur PC est trop gros pour un joueur qui est novice en fait. Un joueur novice qui arriverait actuellement sur le jeu,
tu serais paumé s'il y avait
Il serait paumé parce que déjà il y a 130 chars d'assaut rien que maintenant sur PS4, c'est ce qui est quand même assez énorme. Pour chaque char d'assaut, il y a un système d'upgrade où on peut améliorer son armure, rajouter, changer son équipage. Il y a un système d'équipage très bien fait où on peut interchanger les équipages de ses tanks à l'autre selon sa nation qu'on a choisi. Donc pour l'instant, voilà. Donc s'il y avait tout ce qu'il y avait sur PC actuellement, le joueur clairement il serait perdu et à mon avis c'est pas du tout ce que veut voir.
Et est-ce qu'on regrette un combo clavier souris
alors
quand
là,
on joue à la manette?
Clairement, c'est que voilà, bon, sur
ah
moi
bon moi pourtant un tank avec deux sticks c'est parfait.
Ouais, mais non. Alors voilà, ouais. Rami pour en témoigner.
Bah pourquoi, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je te laisse parler, Rami, si tu veux.
Il me l'a fait tester du coup parce que pour voir un peu le niveau de la maniabilité. Et en fait, le char, tu dois avancer, tu avances et tu freines avec le stick gauche et tu tournes aussi de gauche à droite avec le même stick.
Ah bon ?
Et la tourelle se manie avec le stick droit. Mais
d'accord. Ouais. C'est ça, façon twin stick shooter.
C'est
quoi.
Ça, ouais. Donc du coup, c'est...
Et comme c'est un jeu où justement la gestion de la tourelle est très importante, on s'en mêle un peu les pinceaux.
Finalement, ils ont gardé la maniabilité PC parce que sur PC, j'imagine que tu joues avec les flèches, les flèches ou A, machin. Et de l'autre côté, la souris fait la tourelle.
Ouais, c'est ça, mais le fond, la manette PlayStation...
Du coup, c'est moins précis. Enfin,
ouais,
c'est moins facile
moins précis.
D'être rapidement
de toute façon,
précis.
Tout ce qui est jeu de tir, dans tous les cas, forcément...
Bien sûr.
Malheureusement, c'est pas un troll, mais c'est vrai que sur PC, ça a tendance à être quand même beaucoup plus précis. Et donc voilà, à ce niveau-là, c'est des...
T'arrêtes de troller les consoles, là, s'il te plaît.
Non, j'oserais pas, il y a trois joueurs de consoles face à moi.
Ah non, je suis joueur tout, moi. Comme Poufy, on est des joueurs, il nous faut toutes les plateformes pour nous éclater, donc t'inquiète pas. Si il n'y a que deux joueurs consoles.
Bon, je suis
en majorité.
Je suis rassuré, mais c'est vrai que voilà, je vous le conseille quand même pour un joueur PS4 qui a jamais touché à la version PC ou Xbox évidemment.
De toute façon, c'est gratos.
Oui, voilà.
Ça coûte rien d'essayer.
Voilà. La seule chose qui serait à redire au niveau free to play et boutique, ce serait le fait qu'on peut acheter énormément de missions perforantes. Qui du coup, si tu mets 10€ et que tu achètes 500 munitions perforantes, t'auras tendance à bien poutrer l'ennemi. C'est vrai que ça peut se ressentir, mais à mon avis,
y a pas énormément de gens non plus qui vont mettre des sommes folles dedans en général.
À part les
c'est...
Russes.
Ouais, à part les Russes, c'est ça.
À part les Russes qu'on va mettre dans le gaz.
Les Russes, faut voilà, les Russes, faut savoir que nous pendant tout week-end, nous on va au musée, au cinéma ou n'importe où. Eux, ils vont au musée du char d'assaut, donc ils sont habitués à ça. Et c'est vrai que pour leur char, ils dépensent beaucoup. Voilà. Et sinon aussi niveau, j'avais oublié de parler de ça. Niveau nation, pour l'instant, il y a 3 nations disponibles sur PlayStation 4, à savoir les USA, l'URSS et l'Allemagne évidemment. Mm-hmm. Et ça sera amené à être étoffé comme sur PC, il y aura le Japon, la France, Cocorico.
Attends, mais ça se passe dans le passé.
Ça se passe à la Seconde Guerre mondiale, donc, évidemment.
Ah d'accord.
Seconde Guerre mondiale, donc tous les chars d'assaut présents dans le jeu sont des chars qui ont existé, sauf certains qui sont des chars qui ont existé uniquement en prototype. Donc par exemple, surtout des chars allemands. Par exemple, le Tigre 2 qui a existé en très peu d'exemplaires.
C'est un peu un truc au Japon, on dit les military otaku, quoi.
C'est ça. Mais il y en a en France. Hein.
Vous vous rappelez, il y a eu des pubs pendant une période, je me rappelle, à la télé, où c'était la collection Les meilleurs Panzers de l'histoire.
Il me semble qu'ils l'ont ressorti, ça.
Ah
sur,
ouais ouais, bah, tu vois, c'est le truc que t'achètes en librairie. Puis
parce que ça revient à la mode. Les tanks.
On peut dire qu'il y a des geeks Seconde Guerre mondiale où c'est un marché qui.
Mais tu disais qu'il y avait 130 tanks.
Ouais.
Il y a eu 130 tanks pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, si tu comptes
sur 3 nations.
Si tu comptes, en fait, ils comptent les chars pas au début de la guerre, donc pas en 39, mais même les prémices, c'est-à-dire on peut retrouver les premiers chars qui sont arrivés dans les années 20. Enfin, les premiers chars sont arrivés pendant la Première Guerre mondiale, mais là on retrouve des chars des années 20, les prototypes expérimentaux, que ce soit du passé et du futur. Donc, par exemple, souvent les Allemands sont très bien garnis niveau prototype, les USA aussi. Après, sur PC, on verra que pour le Japon, par exemple, c'est un peu moins. Ils ont beaucoup moins de modèles. La France, pareil. Bah, nous, on a pu développer nos chars pendant quelques années. Et malgré ce qu'on pense, la France a des très bons chars d'assaut. Et d'ailleurs, Wargaming l'a très bien souligné. On avait des bons chars d'assaut à tel point que les Allemands nous ont volé des plans, de plans de nos chars. Donc là, ça aussi, c'est très bien expliqué. Il y a beaucoup de détails pour les passionnés d'histoire.
Ah ouais, mais alors comment ils sont donnés comment tous ces détails historiques là, le vol des plans.
C'est fait sous forme de fiche en fait, tout bêtement. Tu cliques sur ton char, t'as une fiche. T'as une fiche où t'as les caractéristiques de ton char et t'as un petit historique.
Quoi.
Voilà, une petite histoire très sympa, franchement, pour les amateurs d'histoire, parce que c'est assez large. Et ouais, c'est très sympa. Donc on apprend plein de choses pour les amateurs de Seconde Guerre mondiale et d'histoire en général. Voilà.
D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fans, entre guillemets, de la Seconde Guerre mondiale.
Mais oui, c'est ça, ouais.
Moi, par exemple, ma fille, elle a une copine. Son père
elle adore la Seconde Guerre mondiale.
Non, son père collectionne les tenues de la Seconde Guerre mondiale.
Comment il s'appelait le président de la FIA, comme Max Mosley finalement.
Ah bon?
Oui, tu te rappelles pas?
Ah putain, oui. Non, voilà. Mais c'est vachement surprenant parce que j'étais chez lui et puis non, mais il avait pas d'uniforme nazi quand même. Hein, mais,
voilà. Bah, surtout que c'est interdit en France.
Ouais. Non, mais surtout Max Mosley s'était fait choper des photos intimes de soirée, sur lesquelles il était déguisé en officier nazi. Comme le prince Harry, absolument.
Le prince Harry, ouais.
Exactement. Mais bon, ce n'est pas
le roi de la classe.
Très malin.
Bon. L'homme trop bien sapé.
Ne vous appuyez pas en Asie, dans tous les cas.
Non.
C'est...
Évitez de le faire.
C'est pour commander par la bonne société.
En dehors des tournages de films, voilà. Etc. Alain Chabat a le droit, par exemple, de déguiser Hitler s'il veut pour certains sketchs. Notamment.
Ouais, donc effectivement, c'est un marché en tout cas qui porte énormément. Que ça soit même en FPS, comme vous le savez, ça a été énormément traité il y a quelques années. D'ailleurs, ça a été critiqué à un moment par les joueurs et même les développeurs. Et finalement, ça revient petit à petit sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de demandes, hein, même des grosses licences qui reviennent sur le devant de la scène.
Vrai qu'il y a eu un moment où on n'en pouvait plus de la guerre.
C'est ça, ouais.
Et c'est pour ça que Call of Duty est passé à autre chose. Hein.
Bah, ouais.
Et c'est eux les premiers à avoir compris que oh là là, c'est
mais
bon.
Tout le monde en avait ras-le-bol. Il y avait que des jeux sur la Seconde Guerre mondiale.
Et alors que maintenant, par exemple, la licence Battlefield, il y a beaucoup de gens qui réclament un retour aux sources. 1942. Ouais. Et voilà. Bah moi, je suis le premier à aimer ça parce que c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, pour moi,
la vie est un cycle, l'histoire un éternel recommencement.
La Deuxième Guerre mondiale, pour moi, était un sujet très intéressant dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que j'étais habitué. Mes premiers jeux étaient traités de la Seconde Guerre mondiale, c'était Medal of Honor, etc. Donc c'est vrai que j'étais habitué au bourrin comme ça. de la Seconde Guerre mondiale, et c'est vrai que voilà, quand on y est accroché, on a du mal à s'en détacher. Voilà, donc au World of Tanks, je conseille pour les possesseurs de PS4 qui veulent s'y frotter. Sinon, comme j'ai dit, ceux qui ont déjà la version PC, aucun intérêt, franchement.
D'accord, tu lui as mis un petit. Combien?
Un petit.
Un gros? Non, c'est quoi?
Je sais pas, j'ai pas vu la note, c'est pour ça que j'ai.
3,5. 3,5, ouais.
3,5, ce qui en fait un bon jeu.
Bon jeu.
Exactement, c'est suffisant pour être intéressant.
Ouais.
Eh bien, écoute, on va passer maintenant, merci hein, pour ces impressions, ce test de World of Tanks sur PS4. On va passer eh bien, au quatrième thème. On est parti avec une île. Tout à l'heure, on va finir avec une île.
Ah, mais c'est vrai, dis donc, j'avais oublié le quatrième thème.
Et putain, ça a l'air génial, j'ai 1000 questions à te poser.
C'est vrai. Bah, tu peux commencer si tu veux, parce que.
Bah, non, mais fais la présentation.
Ok, d'abord. Présentation Oxenfree, un jeu de Night School Studio qui est sorti ce 15 janvier sur PC. Mac
et Xbox et One.
Xbox One, absolument.
Mais
voilà.
Alors attends, Oxenfree, déjà, il est bizarre ce nom. Hein.
Ouais,
mais je suis sûr que les gens. Ont...
Je peux t'avouer que j'ai absolument pas été
chercher. Ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, quoi. Ouais. Oxenfree.
Alors je ne sais pas d'où vient ce nom.
Ouais,
j'ai pas été enquêté là-dessus, mais ça doit être.
T'as vraiment aucune curiosité intellectuelle. Hein.
Absolument, oui. En tout cas, pas pour ce genre de choses. J'ai d'autres anecdotes qui concernent un jeu que j'ai été voir en Finlande il y a pas très longtemps, mais bon, ça c'est une autre histoire. On en parlera d'ici.
Ouais,
j'ai pas été enquêté là-dessus, mais ça doit être.
T'as vraiment aucune curiosité intellectuelle. Hein.
Absolument, oui. En tout cas, pas pour ce genre de choses. J'ai d'autres anecdotes qui concernent un jeu que j'ai été voir en Finlande il y a pas très longtemps, mais bon, ça c'est une autre histoire. On en parlera. J'ai pas été enquêté là-dessus, mais ça doit être.
Aucune curiosité intellectuelle. Hein.
Absolument, oui. En tout cas, pas pour ce genre de choses. J'ai d'autres anecdotes qui concernent un jeu que j'ai été voir en Finlande il y a pas très longtemps, mais bon, ça c'est une autre histoire. On en parlera d'ici quelques semaines. Oxenfree, eh bien écoute, c'est très simple. C'est comme si. Je sais pas, alors ça me fait penser à The Cave un petit peu en termes de.
Ah ouais, Broken
visuel,
Age.
Et Broken Age. Bah, c'est comme si ces jeux-là.
Mais il a quand même son univers à lui, hein, vraiment.
Ouais, c'est comme si ces jeux-là, qui sont donc en 2D, rencontraient eh bien, les jeux Telltale, tout bêtement.
Ouais.
Parce qu'il faut savoir que Night School Studio, qui s'occupe de ce jeu, eh bien, tout simplement, a été fondé par des anciens de Telltale et de Disney. Ce qui fait que.
Pas mal.
Déjà, la patte graphique, qui est, même si la caméra est un peu éloignée, hein, c'est parfois un peu gênant, ça fait qu'on a l'impression de regarder un petit dessin animé. Ouais. Et puis il y a ce système donc de dialogue qui est le même que dans les jeux Telltale, à savoir
mais
que
vachement
avez...
mieux fait, non ?
Alors le système en lui-même, hein, je parle juste
oui.
du système, de
la façon
choix. Dont
il est présenté.
Exactement. T'as toujours les trois options qui apparaissent et la quatrième, bah, c'est le silence. Sauf que là, on te dit pas appuie sur ce bouton pour qu'il y ait du silence. On faut attendre que tout ait disparu pour avoir du silence. Et ce qui se passe donc, c'est qu'il va y avoir des moments de discussion, énormément de discussion entre votre personnage, la petite Alex, donc une petite héroïne aux cheveux bleus, une ado qui s'est rendue sur une île désertée, une ancienne base militaire désertée, avec quatre de ses copains dont son nouveau beau-frère qu'elle vient à peine de rencontrer.
Tiens, un groupe d'ados qui arrive sur une île,
ça, c'est du jamais vu,
mais c'est dingue.
Ouais, des ados qui s'en vont boire un coup, essayer de pécho sur un endroit désert
et qui se retrouvent dans un thriller, c'est fou.
Exactement. Et bah, va se passer un truc, évidemment elle va déclencher par mégarde à cause d'une petite radio portative qui permet normalement d'écouter et bah, tous les on va dire tous les événements à certains points précis de l'île qui sont touristiques, des événements savoir ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale ou à d'autres instants, et ben à cause de sa radio, et ben il va se passer un truc un peu surnaturel.
Mais ça, vous allez le découvrir.
Ça va partir dans tous les sens. Elle va avoir même des moments, il va se passer des moments où ses compagnons vont disparaître, où ils vont agir un peu bizarrement, où l'écran va faire un peu comme un écran de télévision qui saute, et du coup des boucles temporelles vont se créer. Je peux pas en dire trop sur le scénar parce que sinon.
Mais alors, moi sinon, j'ai découvert.
Je dévoile des choses vraiment très importantes, mais quoi qu'il en soit, du début jusqu'à la fin, on est vraiment pris par une ambiance qui est pas. Alors, ça a été présenté par certaines personnes comme un jeu horrifique, mais c'est pas vraiment horrifique. C'est plus un jeu, on va dire, qui tend à vouloir faire flipper, mais façon Scooby-Doo, tu vois. C'est. Ah ouais, il y a des petits trucs qui se passent.
Tu veux dire à la fin on enlève un masque au méchant?
Ouais, à la fin c'était le propriétaire du parc d'attractions, mais non, en fait c'est pas ça. Non, ça fait vraiment plus Scooby-Doo parce que c'est pas du jumpscare à outrance, le but c'est pas de montrer des trucs gore. Non, c'est faire peser un climat un peu de tension et de se dire mais qu'est-ce qui se passe, bordel.
Il y a un petit climat sexuel aussi quand même.
Non, à part entre deux personnages qui veulent se pécho, mais je peux pas en dire trop.
Parce que d'habitude dans ce genre de production
Dans Until Dawn, oui, par exemple, mais pas là.
Moi j'ai découvert Oxenfree, et d'ailleurs je crois que c'est comme ça que je te l'ai fait découvrir, avec une vidéo de gameplay de 20 minutes qui m'avait hyper impressionné. Pourquoi? Et je pense que tu vas en parler beaucoup mieux que moi, vu que toi maintenant tu as joué et tu l'as fini. C'est que ce système de dialogue avec des bulles est effectivement bien fait, etc. Mais qu'il se dégage un jeu d'acteur
d'une part assez génial, ouais. Et d'autre part des enchaînements entre les répliques des différents personnages qui sont limpides, comme si c'était une séquence de film continue qui s'arrêtait jamais.
Alors en fait ce qui se passe c'est que il n'y a pas de temps mort en fait quand il y a des dialogues, c'est que vous pouvez être en train de marcher, vous pouvez être en train de, bah, de d'escalader comme on peut le voir à l'écran quand, si vous êtes premium, si vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes dans le fil de l'aventure, parce que si jamais vous avez le malheur évidemment d'aller dans une autre direction, il faut savoir que l'île est l'île que vous pouvez explorer est découpée en plusieurs sections. Moi il m'est arrivé un moment, j'ai repris ma partie et je suis pas allé dans le bon sens, et là par contre c'était tout vide, il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus rien jusqu'à ce que je revienne enfin sur les rails, et là à ce moment là bah ça parle tout le temps. Ça peut parler de tous les sujets possibles et imaginables, comme ce qui se passe sur l'île, ou bah tiens les relations entre tel et tel personnage, ou tiens qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour Alex, pour qu'elle soit dans cet état-là, ou Clarissa qui est un peu la bitch de service, pourquoi elle est méchante comme ça. Et ça va parler tout le temps, mais alors en permanence. Vos choix auront évidemment des conséquences hein, sur vos relations avec les persos et sur le dénouement. De fait, vous aurez envie d'y retourner pour savoir certaines choses ou pour voir comment ça se passe vis-à-vis de tous les personnages. Et en fait, c'est cette sensation que, comme tu le dis, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas
ouais,
de
parce que d'habitude, quand, dans la plupart des jeux, on sent, si tu veux, des pistes audio qui sont lancées au moment où on appuie sur le bouton pour parler à quelqu'un, etc. Alors que là, il y a un vrai flux continu dans les conversations.
Absolument.
Ça c'est assez frappant.
En fait,
je ne sais pas comment ils ont
réussi
ça.
L'impression que j'ai eue, c'est que c'était pas deux personnes isolées chacune dans leur cabine qui enregistraient leurs phrases chacune de leur côté,
ouais.
Mais que tous les acteurs étaient là en même
ouais,
temps
réunis, ouais.
Alors il arrive par moments effectivement qu'il y ait quand même des coupures parce que quand tu dois faire ton choix de réplique
si tu vas trop vite
des fois ça peut peut-être couper, mais des fois ça retombe, le jeu arrive à retomber sur ses pattes et à ajouter une autre réplique par dessus pour te faire comprendre que tu fais chier de m'avoir coupé ou un truc comme ça. C'est vraiment mais ultra naturel. Le seul vrai problème
et très bien doublé, les acteurs
c'est
sont
incroyable.
Très bons.
Alors il y a la petite Erin Yvette, voilà, je vais essayer de me rappeler son prénom, qui joue Sacha dans Tales from the Borderlands, qui a aussi fait un peu de The Walking Dead. Il y a Gavin Amon qui joue Kenny aussi dans The Walking Dead de Telltale. C'est les deux principaux, mais évidemment tous les acteurs sont très très bons, les personnages sont ultra attachants.
C'est pas épisodique comme un Telltale,
pas du tout.
Hein,
non, c'est un jeu d'une traite. Vous mettrez à peu près, allez, on va dire 5 heures pour le faire une première fois. Le problème, moi ce que j'estime être un problème, c'est que si quand on veut le refaire, on est obligé de recommencer depuis le début. Et ce qu'aurait été bien, comme
pour les embranchements,
down,
ouais.
C'est de pouvoir avoir la chance d'avoir la possibilité de revenir à certains embranchements ou d'avoir des sauvegardes.
Parce que ça change vraiment l'histoire.
Oui, tu peux vraiment. Alors, je sais pas, ouais, mais ça risquerait de spoiler, mais les rapports entre les persos peuvent vraiment peuvent vraiment être très variables dans l'épilogue. Et ça peut être genre ton perso a été super cool pendant toute la partie, comme ça peut avoir été la pire des peaux de vache. Donc voilà, je peux pas en dire plus.
Ouais.
J'ai été explorer justement deux options différentes, et je pense qu'il y en a encore plus. Et de ce côté-là, ça fait que c'est un super jeu. Alors le problème,
une petite
voilà.
question quand même, ouais. En termes de gameplay, donc c'est un.
Ah bah y a pas de puzzle. Hein.
C'est un jeu. Ah justement, j'allais dire, c'est un jeu d'aventure avec des puzzles, non ?
C'est du narratif.
Uniquement narratif.
C'est uniquement narratif. Il y aura des moments où tu vas interagir pour découvrir.
C'est un pouce-bouton quoi.
Tu vas avoir des moments.
Je dis ça, moi j'ai aucun problème avec les jeux narratifs. Hein, mais...
Tout ce avec quoi tu vas interagir, ça va surtout être des éléments qui vont servir à la narration ou qui vont te donner de l'historique sur l'île.
Ah bon? Mais moi j'avais cru voir dans la séquence de gameplay qu'il fallait monter dans une pièce, appuyer sur un interrupteur, redescendre.
Oui, ça c'est pas tu.
Oui, c'est
tu
pas des puzzles
non,
quoi, c'est
tu
juste
réfléchis pas. Ouais. Tu réfléchis pas et les petits moments où tu dois te servir de la radio pour capter des fréquences et du coup ça va ouvrir des failles temporelles. Non, franchement, il n'y a pas de réflexion.
Au moins, c'est 5 heures, tu sais, que tu ne vas pas bloquer et que ça durera 5 heures pour tout le monde.
Exactement.
Ce qui n'est pas du tout le cas de The Witness, par exemple. Ouais. Tu ne sais pas du tout combien de temps tu vas mettre pour finir le jeu et combien de temps tu vas mettre pour régler chaque aucune des... J'ai pas dit qu'il y avait plus de 600 énigmes dans, non, The Witness. Tu je vous le dis maintenant, c'est complètement décousu cette histoire, mais c'est pas grave.
Ouais. Enfin bon, tout ça pour dire qu'Oxenfree, voilà, si, si vous êtes fan de ces jeux où bah, on peut marcher beaucoup sans qu'il se passe grand chose, on n'est pas obligé de faire des QTE.
Tu le vends mal, là, tu le vends mal.
Non, non, mais c'est exactement ça. C'est un simulateur de trekking avec du dialogue en plus. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et c'est comme, bah, comme Gone Home, comme. Bon, Ethan Carter, il y a peut-être une. Non, Ethan Carter, c'est pareil.
Ouais, Ethan Carter, ouais, mais c'est un peu différent quand même. Ethan Carter, on peut quand même aller où on veut, etc. C'est
ah, mais là aussi, tu peux aller où tu veux. Ouais. Tu peux aller absolument où tu veux, mais disons qu'il y a quand même un ordre à respecter par moment, même si des fois. Ouais, t'as quand même des embranchements où tu choisiras où tu dois aller. Enfin bon, c'est un jeu que je conseille énormément aux gens qui adorent le style
narratif
dirigiste linéaire. Mais par contre, je le déconseille vivement aux gens qui sont anglophobes parce que c'est totalement en anglais et même avec les sous-titres, parfois c'est un peu difficile à suivre si vous êtes pas.
Ouais, parce que c'est des ados qui parlent vite. Hein.
Oui, c'est des ados qui parlent vite et qui font des références pop culture, qui parlent de choses un petit peu.
Eh oui, que veux-tu très, très. C'est comme si on n'existait pas, nous. Hein, voilà, ouais. C'est ça. Il y a d'autres langues sur Terre.
Bah ouais, mais bon, après, ça coûte un peu cher de localiser.
Et bah, The Witness est entièrement localisé.
D'ailleurs, le Shenmue 3 d'ailleurs, l'a prouvé hein, dans ses différents paliers. Ça coûte super cher hein, de localiser en français, en allemand, etc.
C'était combien?
C'était plus de 100 000 dollars.
Ouais, plus de 100 000 dollars pour avoir le droit de le localiser en allemand, si je me rappelle. C'était le dernier palier, un des derniers paliers, tu te rappelles?
Ouais, c'était histoire de mettre des paliers, quoi.
Ouais, exactement. Enfin bon, voilà. Donc,
enfin, cela dit, l'allemand est une langue très compliquée. Hein.
C'est vrai.
Je sais pas si ça peut jouer.
Traduire du japonais à l'allemand, ça va franchement être chaud.
Ouais, franchement, ouais. Là, c'est peut-être un palier de 200 000 qu'ils ont dû prévoir.
Ouais, ouais. Exactement. En tout cas, Oxenfree, ça se trouve, aura droit à des sous-titres français de la part de la communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si jamais vous êtes témoin d'un enlèvement, non, de commentaires, de sous-titres, pardon, qui pourraient arriver en français, n'hésitez pas.
Bah, moi, je me souviens
lire, hein.
Que les jeux tels, ils s'emmerdaient pas non plus. Hein.
Oh, oui, ça y allait,
Walking Dead, il est resté en anglais pendant un an et demi. Enfin, il y avait des mecs qui faisaient des traductions, ouais, quoi, avec des fautes d'orthographe. Ouais. C'est insupportable de jouer avec des fautes d'orthographe.
Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, enfin, tout ça pour dire que.
C'était pas des petites, quoi.
C'est un super jeu. N'hésitez pas. Je lui ai mis un petit 4, tout à fait mérité. 4. Il réinvente pas la roue, mais tout ce qu'il fait, il le fait très très bien. Et j'espère que d'autres jeux vont s'inspirer de son système de dialogue ultra coulé et ultra fluide. Parce que ça, par contre, je crois que c'est vraiment une première. Ça doit être la première fois que je ressens le fait qu'il n'y ait pas de coupure entre les dialogues. Voilà, Oxenfree, c'est sur Xbox One.
Ça coûte combien déjà?
Ouais, c'est, je t'ai laissé la facture, attends, c'est 19,99 je crois.
D'accord.
Un truc comme ça, c'est ça hein.
Peut-être.
Ouais, peut-être.
C'est ce qui était marqué. Ouais.
C'est ce qui était marqué sur la facture. D'accord, très bien. Voilà, bon, on a fini.
T'es
avec.
T'es comme ça, toi, tu me files tes factures.
Ouais, je te file mes factures.
tu me prends pour qui? La Banque de France.
Exactement, pour Monsieur Rothschild. On en a fini avec les thèmes de ce podcast, messieurs, ce qui est plutôt.
Ouais.
Une bonne chose, parce qu'il va bien falloir un moment conclure. Et conclure comment?
Ah bah avec le hors-jeu.
Exactement, comme chaque semaine, vous le savez, nous avons envie de partager avec vous d'autres expériences que le jeu vidéo. Un peu de cinéma, un petit peu de série, un petit peu de livres, même si on nous traite souvent d'analphabète.
On en présente souvent des livres.
Ouais, mais bon, après, ça veut pas dire qu'on sait les lire. Hein. En général, il y a des images dedans. Hein.
Ouais.
Bon, bah, bref, la bande dessinée, les mangas, les animés. Eh bien, cette semaine, nous allons commencer avec
un livre en allemand.
Rami. Et c'est encore un film d'un Quentin, dis donc. Tu nous as fait un film d'un
Quentin.
Ouais.
Après, Quentin Tarantino, c'est Quentin Dupieux.
Ouais.
Réalisateur français et qui a fait bah, du coup son dernier film en fait, c'était Réalité qui est sorti en 2015 et c'est un film qu'au départ bah, tu arrives un peu à comprendre parce qu'il y a différents personnages.
Ça s'appelle comment? J'ai pas...
Réalité. Au départ en fait tu suis Alain Chabat.
Joue, ah putain, il y a Alain Chabat
qui joue
bon,
Jason,
déjà c'est un bon point. Okay, il y a un grappin ou pas?
Qui joue Jason ou plutôt Jason comme l'appelle Jonathan Lambert. Et du coup en fait il vient voir Jonathan Lambert, il vient lui exposer son film en disant putain,
Jonathan Lambert joue un producteur, c'est
ouais,
ça?
Il joue un super producteur super riche un peu fou qui tue des
il
des
ressemble
surfeurs,
à Carl Zero dans les images quoi. Ouais, c'est marrant.
Qui a un passe-temps à tuer des surfeurs qui le font un peu chier, mais du coup bah en fait il vient lui exposer son idée, il lui dit tiens j'ai un super film où bah en fait il y a des gens qui vont regarder la télé, une fois qu'ils regarderont la télé en fait les ondes vont les tuer, il y a du son qui va sortir de partout etc. Et Jonathan Lambert lui fait écoute je te produis ton film, je te fais ton film, on va signer, mais tu dois me trouver le meilleur cri du monde, le cri qui va valoir un Oscar. Et pour ça, t'as 48 heures. Et le mec va passer tout son temps à crier dans la voiture, genre ah.
Mais ça,
et c'est numéro 47.
C'est un pitch complètement Écoute-moi.
Bah alors, ça c'est rien ça encore. Parce que
cinglé, non,
enfin... Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnages. Il y a aussi l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Réalité, qui elle, en fait, bah du coup, on suit ses petites aventures. Elle est chez elle, etc. Et son père, en fait, tue un sanglier. Et il dépece le sanglier, etc. Il enlève tout. Il enlève
dépece
tout
ce qu'il y a... même.
Ouais. Exactement. Et du coup, en fait, il y a une cassette. Il y avait une VHS à l'intérieur du sanglier.
Elle regarde la cassette et là, elle est maudite. Il y a Sanako qui sort de la télé. Non,
et en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dans la cassette jusqu'à la fin du film. Et c'est un peu toute l'intrigue là-dedans. C'est qu'au départ, tous les personnages, tu comprends un peu toute la démarche de tous les personnages. Et il y a un moment où, en fait, je crois que Quentin Dupieux, ça, c'est tous les films, il ne faut pas y chercher à comprendre. Comme c'est Dieu dans son film, il casse tout. Et tu fais, mais en fait, c'est plusieurs personnages qui sont tous les...
Bah... Tu te racontes toute l'histoire, en fait, là.
Non, c'est encore plus what the fuck que ça. C'est que chaque personnage vit sa propre vie, sauf qu'à un moment, ils sont reliés à différents degrés de réalité. Et c'est mais totalement what the fuck. Sachant que, par exemple, t'as une scène dans le film où t'as un mec, il est sur sa Jeep, habillé avec une robe comme une femme, etc., qui va chez un petit vieux et qui toque. Et le petit vieux ouvre et fait et le mec fait « Mais c'est chez vous ?» Et le mec fait « Oui ». Il fait « Ah, ça me fait chier !» Il jette le bouquet de roses et il repart. Tu fais « Mais pourquoi ?» Et en fait, t'apprends que c'est un rêve, sauf que c'était pas vraiment un rêve parce que la petite fille, en réalité, avait vu le mec. Enfin, c'est des enchaînements qui sont tellement incohérents. J'ai cherché à comprendre le film. Et en fait, c'est tout le piège du réalisateur. C'est qu'en fait, faut pas chercher à comprendre le film.
D'accord. Parce que ça me fait penser aux performances artistiques des années 60 où t'avais des gens qui montaient sur scène et qui criaient des mots bizarres en s'agitant, en se mettant sur des chaises, des trucs comme ça.
Ça a ni queue ni tête. Ça se moque même un peu en fait des films de Nolan, d'Inception, en fait, où t'as le mec qui dort, qui est dans un rêve, qui est dans un rêve, qui est dans un rêve. Là, c'est exactement la même chose. Sauf que. Du tout ça, mais
c'est
ça,
tourné au ridicule en fait.
Ouais, c'est tourné au ridicule, ouais. Et Alain Chabat est tellement extraordinaire dans le film que.
Mais finalement, c'est quoi? C'est une espèce de comédie ou...
C'est.
Ouais, non, c'est un film bizarre.
C'est un film, ouais, c'est un film qui
sort.
Mais
t'as aimé?
Ouais, j'ai adoré, ouais. C'est très bizarre. Je pense que je le regarderai une nouvelle fois parce que.
Tu sais, moi, en même temps, beaucoup de gens apprécient ce grand cinéaste qui est David Lynch. Et quand tu vois, je sais pas, par exemple.
Mulholland Drive.
Mulholland Drive.
Mais tu buterais,
mais
tu
personne n'a compris le film. Non. Enfin, je veux dire,
jusqu'à ce que lui il dise oui, c'est peut-être un rêve.
Oui, oui, enfin, je veux dire, quand tu sors du film, moi je me souviens d'avoir eu ce sentiment détestable d'être un imbécile et de dire c'est pas possible, j'ai pas compris, ça veut dire que je suis nul ou alors il me prend pour un con. Ça m'avait énervé.
Ah, je me rappelle, tu m'avais appelé, t'étais au bord du suicide. J'étais au bord de la scène, là, comme ça, tu voulais sauter.
Je me souviens avoir dit j'aime pas ce film, ça m'a saoulé quoi, parce que ça m'avait trop énervé de. Pas comprendre à ce point-là, en fait. Et au final, des années après, je me rends compte que je suis toujours imprégné par ce film, hein, comme une œuvre d'art qui t'a complètement marqué, qui t'a imprimé dans ta tronche. Mulholland Drive, en fait, je t'ai aimé, Mulholland Drive, si fort, mais je m'en suis rendu compte des années après. Et j'ai été totalement imprégné par ce film, quoi. Et ça me fait penser à ça, tu vois. C'est
totalement dans la même
veine. On n'a pas besoin de comprendre pour apprécier finalement l'art d'une manière générale. C'est ce que ça t'évoque, ce que ça crée en toi comme sentiment.
T'as toujours ce besoin d'essayer de comprendre, d'essayer de relier un peu tout ça, sauf qu'en fait quand t'essayes de le faire tu sais que tu comprends rien, mais c'est ça aussi cette démarche qui est un peu comme David Lynch en fait.
Et ce qui est bien, c'est quand on te donne pas la réponse aussi. Quelque part, t'attends toujours une réponse à la fin d'un film, et parfois quand on te la donne pas, justement quand c'est mystérieux comme ça, ou un peu comme Stephen King, ou tu vois Alan Wake par exemple, finalement on sait pas trop.
Peut-être qu'un jour qu'on saura.
Bah non, je pense pas. Je pense que s'il y a une suite, on ne comprendra pas pour autant. Enfin, je veux dire, on n'aura pas une explication terre à terre du truc, quoi.
En tout cas, je vous le recommande vivement si vous voulez commencer avec du Quentin Dupieux. C'est, je trouve, le film qui est peut-être pas le plus abordable, mais qui est vraiment. On peut découvrir son univers via ce film.
Moi, je connais pas Quentin Dupieux. Il a fait quoi comme film?
Ouais, c'est ça, pour l'instant. Pas Netflix.
Pas Netflix.
D'accord.
Il a fait Wrong Cops avec. Comment il s'appelle? Eric.
Ok. Eric de Eric et Ramsey.
Ouais. Ah, Eric Judor, d'accord. Ouais.
Et du coup, c'est drôle ou pas?
Ouais, c'est drôle, ouais. Parce
qu'avec
un
achat, on peut s'attendre à quelque chose de.
Bah, c'est...
Ça dépend, si tu regardes le cousin, tu.
Ouais, ouais, en général.
Ouais, c'est assez drôle et c'est totalement what the fuck à tous les degrés. C'est, tu peux pas comprendre le film, tu comprends pas. En fait, pendant tout le film, t'essaies de dire, mais pourquoi ils font ça? Et c'est. Enfin, lui-même pense qu'il est fou dans le film, mais en fait, c'est totalement. c'est un film dans un film, un film dans un film, un rêve, un rêve, un rêve, un rêve, un rêve, qui sont imbriqués. Tu te dis.
Mais
bah...
c'est marrant, son premier film s'appelle Non Film.
Ouais. Ouais, c'est un réalisateur qui
ah, c'est celui qui a fait Steak, d'accord.
Ouais, ouais. Ouais.
Ah bah oui, c'était Rick Ramsey aussi d'ailleurs, Steak, non c'est pas ça?
Oui,
mais
je crois,
ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, me semble bien. Ouais.
Un film bien What the Fuck aussi.
Ouais. Oui, bah, tout ce qui est Rick Ramsey, d'ailleurs la tour de contrôle arrive bientôt, je crois, la tour de contrôle infernale.
Tout le monde en masse.
Non, la tour de contrôle, ouais, ça s'appellera la tour de contrôle infernale, avec un 2, la tour 2, contrôle. Ça arrive bientôt je crois, et il y a déjà eu des séances un peu partout en France, et visiblement les gens ont l'air d'avoir kiffé.
Arrêtez tout, sinon je mets une balle dans la tête à la main. Ouais. Cette,
non, moi, je sais pas, moi le film va faire.
Il a une main dans la main et il menace de mettre une balle dans la tête de la main.
Mais, ouais, le seul passage qui m'a fait marrer, mais vraiment, vraiment marrer, le reste c'était pas trop ça. Ouais, si, il y a le truc avec le chinois évidemment. Mais
C'est quoi le truc avec le chinois?
Bah, attends.
Calme-toi, c'est pas nous quand tu es ton frère.
Ouais. Un truc comme ça. Enfin, et il commence à dire des conneries. Ah ouais, t'adores tout ce qui vient de Chine, la sauce aigre doute, tout ça. T'es délicieux.
Enfin, bref. Il adore imiter.
Ouais, il adore imiter les chinois, ouais. Alors que le mec il est pas chinois du tout, il parle en français normal, ouais. Bref. Non, c'est qu'est-ce que je voulais dire, c'est le passage où ils sont recherchés dans la tour et t'as Ramsey qui met la main sur une barre brûlante, ouais. Genre non, c'est ah non, c'est Eric qui met la main sur une barre ultra brûlante et tu vois la main qui fume comme ça, ouais. Et il faut pas qu'ils fassent de bruit les deux. Et t'as Eric qui le regarde en chialant comme ça là, et t'as Ramsey qui alors, si vous le verrez si vous êtes premium, mais qui lui fait un truc genre ouais comme ça hein, sur la tête. Ça ce passage là, je t'avoue que ça me fait marrer à chaque fois, mais genre vraiment à chaque fois. Enfin bref, merci Rami pour ce petit conseil. Julo, tu vas nous conseiller un truc
oui,
un peu what the fuck aussi hein, faut le dire.
Totalement.
Ouais.
Non. En fait, moi, je vais conseiller un film aux parents qui ont envie d'emmener leurs enfants au cinéma. Ça s'appelle Snoopy et les Peanuts, et c'est donc l'adaptation au cinéma de Snoopy. Tout le monde connaît Snoopy. Je le présente pas.
Ouais.
Et ça a été réalisé donc par le studio Blue Sky, à qui l'on doit L'Âge de Glace, enfin les différents films L'Âge de Glace, les différents films Rio également. Et j'ai beaucoup aimé, et mes enfants aussi, et je vais vous dire pourquoi. Donc ça raconte l'histoire de comment il s'appelle le personnage de
Charlie
Snoopy.
Brown.
Charlie Brown, voilà. Charlie Brown qui habite dans son petit village, entouré de différents gamins avec qui il joue et qui sont à l'école avec lui. Et Charlie Brown, il fait toujours des conneries. Et tout ce qu'il fait ça rate, on se fout de sa gueule parce qu'il essaie toujours de faire voler son cerf-volant et qu'il n'y arrive jamais. À l'école il se couvre de ridicule souvent, etc. Et le film commence au moment où un nouvel arrivant en ville s'installe dans la maison juste à côté de chez lui, et lui il se dit ah, quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir un regard neuf sur moi, pas biaisé par toutes les conneries que j'ai pu faire, etc. Et donc qui va peut-être pouvoir m'apprécier à sa juste valeur, etc. Donc il attend impatiemment de voir si dans cette famille qui arrive il va y avoir un enfant. Et bah oui, il y a un enfant, il s'en rend compte à l'école avec cette jolie petite fille rousse qui arrive, et il tombe immédiatement amoureux d'elle. Et tout l'objet de l'histoire de ce film, c'est de voir comment ce petit gamin va faire en sorte que cette petite rousse charmante tombe amoureuse de lui. Donc c'est un film sur l'amour, mais surtout en fait sur l'estime de soi et sur le fait de bien agir en accord avec ses principes et surtout sa personnalité, pas essayer de trahir les autres sur qui on est, et jouer sur ses forces. Et c'est ce que va faire notre petit Charlie Brown durant ce film très sympa. Où en fait, évidemment Snoopy, vous savez, c'est pas véritablement, ça peut pas être le personnage central du film, il est toujours un peu à côté, il est là, c'est Charlie Brown le personnage principal, mais Snoopy vit une aventure presque parallèle, et c'est assez sympa parce qu'en fait, donc lui il est très marrant, lui il a très confiance en lui et il a une imagination débordante, et en même temps que Charlie Brown va tomber amoureux et essayer de faire en sorte que cette fille le remarque, lui, Snoopy, à côté de ça, va vivre sa propre aventure dans sa tête. Il va sortir sa machine à écrire et il va écrire ses propres aventures où pareil une nana tombe follement amoureuse de lui alors qu'il est pilote d'avion, etc. Et il y a une vraie Il y a une vraie différence entre les séquences qui sont dans la vie de tous les jours avec Charlie Brown à l'école, etc., où ça va être comment dire, un dessin assez simple, une animation un peu hachée, etc. Et les moments où Snoopy rêve qu'il est un héros incroyable, et là il y a une réalisation hyper poussée avec du vent, de la pluie, des superbes effets, alors que finalement c'est que une partie imaginaire, quoi. Donc ce rapport entre la réalité de Charlie Brown et la fiction de Snoopy, les petits gags qu'il y a à droite à gauche, c'est très bien écrit. Franchement, il y a des dialogues qui sont super drôles, un comique de situation aussi qui est très, très intéressant. Bref, les enfants peuvent passer un bon moment.
Et les parents.
Et les parents aussi, comme souvent dans les dessins animés réussis. Donc je le recommande à
tous.
Il faut
dire que ça a un peu bercé notre enfance quand même.
Bah oui. Et puis bon, ça nous change, quoi. Je veux dire, on est habitué à Disney, à comment ça s'appelle,
Pixar,
etc. Là, c'est autre chose, quoi. Snoopy, c'est une autre ambiance, et ça nous change. Et c'est franchement hyper bien fait. Et très touchant. Très touchant. C'est une histoire simple.
T'as pleuré ?
C'est une histoire simple mais touchante. Presque.
Oh.
Presque. Presque parce que.
Oh, le fragile.
Voilà, ouais, vous savez, bon. Je suis fragile, moi.
Ouais. Bon.
Snoopy et les Peanuts.
Qui est toujours à l'affiche en ce moment aussi.
Bien
sûr,
ouais, c'est une sortie récente.
Eh bien,
il m'arrive de voir des trucs récents.
C'est tellement rare.
Bah, en fait, non. Quand tu regardes bien.
On va passer, bah tiens, à mon hors-jeu, tiens, parce que j'ai envie un petit peu de vous parler de,
oh non,
de quelque chose. Bah si, oh. si. Avant de finir avec Camille, on va parler, eh bien, de quelque chose que j'ai offert à mon épouse pour
tiens,
Noël.
Tu fais des cadeaux à ton épouse.
Ouais.
Et tu t'en vantes devant tout le monde.
Bah, je m'en vante parce que comme il faut que j'économise des mois, tu sais, vu que c'est difficile hein, à Gameblog.
Ah
bref. Je lui ai offert, et je crois que j'ai fait quelque chose de très bien, le coffret de Cobra.
Space
Adventure
Cobra,
qui est sorti il y a un an en Blu-ray. Et ben, on s'est regardé les premiers épisodes
c'est
ensemble.
Génial, Cobra.
Et ben, c'est toujours aussi bien.
Personne ne l'aperçoit.
Et surtout, l'image vraiment en Blu-ray, elle est vraiment très très bien restaurée. Il n'y a pas de vibration.
Et ils sont passés en mode 16/9 en rognant un petit peu et tout ça.
Non,
c'est 4 tiers.
Ça reste du 4 tiers. Hein. C'était le format original. Donc voilà, parce que c'est la série qui date des années 80, hein, quand on regardait nous à la télé dans les années 80. Alors, la raison pour laquelle ma femme aime Cobra d'abord, c'est parce que, comme elle était amoureuse de Jean-Paul Belmondo et qu'elle savait que Cobra était adapté de Jean-Paul Belmondo, enfin bref, voilà tout ça. Et donc, on s'est rematé les premiers épisodes et ça n'a pas vieilli, vraiment, c'est toujours
aussi
bien fait. Et pourtant, je crois savoir que la série avait été refaite au début des années 2000 sous une autre forme, avec un trait encore un petit peu changé, des nouvelles technologies et tout, mais celle-ci, vraiment, elle n'a pas vieilli d'un iota.
Ouais, il y a une ambiance dans ce.
Pff, mais c'est extraordinaire.
Cette série qui est géniale.
C'était une époque où on pouvait montrer à peu près tout et n'importe quoi dans les dessins animés sans qu'on se pose trop de questions.
Bon, c'est un dessin animé pour jeunes adultes. Hein,
exactement, parce
clairement.
Qu'il y a de la fesse, hein, faut le dire.
Faut le dire.
Il y a
des bras aussi qui
se
détachent.
Il y a des bras qui se détachent parce que c'est l'histoire d'un mec qui était.
C'est l'histoire d'un mec
qui était une espèce de mercenaire de l'espace. Qui s'en prenait aux méchants pirates de l'espace et qui un jour il en a eu marre, il s'est caché et il s'est tellement bien caché qu'il s'est fait refaire le visage et qu'il s'est même fait effacer la mémoire, mais tout lui est revenu et du coup il repart affronter celui qu'on appelle l'homme de verre. Il y a des milliers de petites histoires qui vont arriver, je crois qu'il y a 31 épisodes en tout. Comme je vous le disais, ça n'a pas vieilli. Et surtout, ce qui n'a pas vieilli, eh bien, c'est le doublage français, qui est génial, avec la voix de Jean-Claude Montalban, qui fait toujours la voix de Cobra.
Ah, tu les as regardés en français, du coup, tu n'en as pas profité.
On a regardé en français, et il y avait un truc, par contre, qui n'est pas en français, même si tu le mets en VF, c'est les résumés des épisodes suivants, qui
bien sûr.
Restent en japonais.
Oui, pareil pour Goldorak, hein, et des rééditions de Goldorak en DVD qui sont super, que je vous recommande.
Et donc, voilà, et la voix de Jean-Claude Montalban, que vous connaissez, si vous connaissez. La classe américaine, parce que c'est lui qui doublait Peter, évidemment. Il fait toujours un Cobra qui a une espèce de touche comique supplémentaire encore par rapport à ce qu'il est. Il est déjà très comique en japonais, hein, mais c'est encore mieux en français.
Mais tu sais, les choses qu'on a découvert en français, c'est difficile de s'en passer après. Enfin, surtout quand les doublages étaient réussis, évidemment.
Mais je sais que
moi, par exemple, quand je regarde Star Wars épisode 4, 5, 6, je les regarde en français toujours.
C'est vrai.
Ouais. Alors que je regarde en VO les 1, 2, 3. Et que je regarderai en VO le 7, 8, 9. Ouais,
c'est
tu
des
vois.
Habitudes que tu as pris comme ça.
Moi. Bah ouais, ouais. C'est, pour moi, c'est pareil avec Indiana Jones. Indiana ouais, pareil, Jones, Indiana je dois Jones, l'entendre en français, moi.
C'est vrai que c'est.
J'y arrive pas s'il, est pas s'il parle pas en français. Ça me fait bizarre.
C'est vrai.
Ouais, j'ai l'impression que c'est pas sa voix.
J'ai jamais regardé en... autrement qu'en français non plus pour Indiana Jones. Je me demande ce qu'il dit quand il dit c'est la coupe d'un charpentier.
Bah tiens, c'est intéressant ça. Peut-être dans
et
le.
Quand il dit j'adore Venise.
Dans le hors-jeu de la semaine prochaine, peut-être tu pourras nous le dire.
Ah bah
enquête,
peut-être.
Enquête.
Enquête, je vais enquêter.
En tout cas, Cobra, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un dessin animé génial qui n'a pas vieilli. Et d'ailleurs,
et en bleu, les à gens. Peu près une centaine d'euros pour le coffret collector normal et 149 pour un big putain de coffret. C'est pas celui-là que j'ai offert.
Mais si vous êtes plus jeune que nous. Et que donc vous n'avez pas connu ça, et que pourtant vous êtes un fan d'animation japonaise, que vous connaissez les l'attaque des Titans et autres chefs-d'œuvre qui existent aujourd'hui. Ben franchement, un petit retour sur Cobra, ça mange pas de pain et c'est même génial.
Ouais, absolument. Et il faut savoir d'ailleurs au passage que son créateur Buichi Terazawa, qui a eu une petite période un petit peu difficile sur le plan de la santé, hein, et ben il sera à Monaco le 27 février pour le Magic. Donc si jamais vous êtes un fan de Cobra, qui est son œuvre principale, eh bien n'hésitez pas à aller le voir. À mon avis, il aura des choses intéressantes à raconter pendant cette journée, où il y aura aussi du Shenmue 3.
Ouais,
j'allais dire quelque chose.
J'allais dire que je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait il y avait déjà un coffret DVD de Cobra qui était sorti il y a quelques années, mais il y avait eu un micmac avec les droits et finalement ils n'avaient pas eu le droit de le sortir. Je sais plus quel éditeur c'était, et il avait dû être retiré du marché. C'était extrêmement frustrant parce que c'était une grosse sortie à l'époque que tout le monde attendait. Il était disponible uniquement en VHS.
C'était pas TF1 Vidéo qui l'avait fait ?
Non, c'est pas TF1 Vidéo qui a fait une connerie comme ça. C'était un éditeur d'animé spécialisé, quoi. Je me rappelle plus lequel.
D'accord.
Enfin, ils avaient fait un super beau coffret en plus et il avait été retiré de la vente. Donc c'est bien qu'il soit à nouveau disponible.
Bah tiens, j'en profite au passage. Avant qu'on passe à Camille et son hors-jeu, j'ai un appel à faire. Si jamais vous savez où trouver toutes les saisons de Edgar de la Cambriole, à savoir Lupin 3 en français, parce que trouver la saison 1, les deux coffrets de la saison 1, c'est juste une tannée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis à leur recherche absolue.
Et Le Bon Coin.
Le Bon Coin, j'ai essayé, ça n'a pas voulu marcher.
Manga Distribution.
J'ai tout essayé.
D'accord.
J'ai tout essayé. En français,
si
c'est impossible.
Idées.
J'ai même essayé de voir si j'ai trouvé en Italie avec du sous-titrage français. Non. Tu vois. Et pourtant, c'est un carton absolu en Italie, Lupin 3. Mais bon, j'ai pas réussi. Je suis un peu triste. Donc voilà. Si vous avez des plans, n'hésitez pas à me le dire. Même si vous les vendez, je les veux bien. Camille,
oui,
on va finir avec toi pour ce hors-jeu.
Encore du cinéma.
C'est encore du cinéma, absolument.
Ouais, avec le dernier film de M. Night Shyamalan.
Shyamalan.
Ouais. Qui s'appelle The Visit, qui est un film d'horreur. En tant qu'un grand amateur film d'horreur, je me suis jeté dessus à sa sortie en octobre dernier. Qui d'ailleurs, il va sortir en DVD. Blu-ray.
Et donc, il se remet à faire des bons films alors.
C'est un très bon film. Hein, c'est un très bon film. Bah, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a réalisé Le Sixième Sens, The Village, Sign. Ouais. Enfin, pour moi, c'est des très bons films en tout cas.
Oh bah, Unbreakable.
Après, il y a eu des. Oui, effectivement, il y a eu
Unbreakable, j'ai adoré.
Moi aussi.
Très bien, celui-là.
Incroyable film, Unbreakable.
J'ai été déçu aussi par certains films, mais c'est vrai qu'en tout cas, ceux-là sont très bons.
Il y a la jeune fille. Mince, comment il s'appelle ? Une fille qui vit dans une piscine ou un truc. Enfin,
je l'ai pas vu celui-là.
Ah putain, je sais plus comment il s'appelle, mais il avait l'air très bien celui-là.
Non, il était pas terrible.
Il y a Avatar aussi, le dernier maître de l'air. C'est lui qui l'a
réalisé.
Ah,
c'est vrai.
Donc là, ça n'a rien à voir.
Là, on
parle d'un thriller. Comme il sait les faire.
Thriller horrifique, donc un peu dans la veine du Sixième Sens. Avec un twist final vraiment corsé.
C'est le roi du twist. Hein.
C'est pour ça que c'est un film très difficile d'en parler, parce que sinon c'est spoil à volonté. Donc pour faire court, en fait, c'est l'histoire d'une mère célibataire qui s'appelle Rebecca, Loretta, qui a deux enfants, donc une fille de 17 ans qui s'appelle Rebecca et un fils de 12 ans, je crois, qui s'appelle Tyler. Et en fait, cette mère célibataire reçoit le coup de fil de ses parents. Avec qui elle n'avait pas eu contact depuis des années. Et donc ses parents proposent de voir Tyler et
Rebecca.
Tyler et Rebecca, voilà, pour les vacances. Donc ça part de là. Donc les deux petits enfants vont chez eux. Et voilà, donc à partir de là, il va se passer des choses assez dramatiques chaque soir avec une intensité supérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est du fun footage. Et c'est Tyler, donc le petit garçon qui filme. Mm-hmm. On se retrouve beaucoup dans Tyler, qu'on soit d'ailleurs ado ou adulte, parce que bon, il a
tout
il
le
a...
film est filmé à travers leur caméscope.
Oui, c'est ça.
C'est un caméscope, une GoPro. Qu'est-ce qu'il a ?
Alors bon, apparemment c'est une... bon, c'est quand même bien filmé, hein, mais on retrouve des effets vraiment, voilà, des fois des face cam, etc. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que Tyler, bon, il a que 12 ans, mais on se retrouve vraiment en lui, parce qu'il donne plein de commentaires à la pop culture, etc. Donc les petits moments humoristiques, c'est souvent de lui que ça vient. Il fait un battle de rap avec sa sœur, il me semble, vraiment. Enfin bref, c'est assez intéressant, et ça permet de relâcher la tension qui est quand même qui monte à son comble. Mais
pourquoi ? Parce qu'il se passe quoi exactement alors, chaque soir ?
Alors en fait, ils se retrouvent donc chez leurs grands-parents, et ses grands-parents ont un comportement mystérieux. Donc la grand-mère est un peu frappadingue, on comprend pas vraiment pourquoi au début, on comprend par la suite. Le grand-père, il est pas mieux. Le petit garçon, la première chose qu'il retrouve dans la grange de ses grands-parents, parce que ça se trouve à la campagne américaine, c'est des couches-culottes. Je vous laisse deviner ce qu'il y a dedans, de son grand-père. Donc déjà à partir de là, c'est assez étrange. Et tous les soirs, c'est un engrenage. Il se passe des choses à peu près à la même heure. Et justement, Tyler va en profiter pour filmer ce qui se passe. Et bon, je peux pas vraiment vous en dire plus sur l'histoire, que sinon après ça...
Attends, c'est actuellement au Cinoche ?
Ah non, il est encore actuellement dans certains cinémas de Paris, mais il est sorti quand même en octobre dernier, donc non. Mais il sort dans une vingtaine de jours en DVD Blu-ray.
D'accord.
Et franchement, je vous le conseille.
Le 23 février, exactement.
Voilà, c'est ça. Et c'est un très très bon film. Enfin, moi j'ai adoré. Enfin, de base, je suis amateur de films d'horreur, donc si vous êtes amateur de films d'horreur, foncez-y, même si ça, c'est pas un genre qui vous plaît, foncez-y aussi. Parce que c'est pas vraiment de l'horreur pure, hein. On n'est pas dans du, c'est pas vraiment un film d'horreur pur et dur en fait, c'est plus un thriller psychologique, et vous attendez pas à voir des choses fantastiques, etc. C'est vraiment c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que c'est toujours comme chez ce réalisateur, c'est vraiment l'esprit humain souvent qui est mis en jeu. Et donc vraiment énormément de choses sur l'esprit humain, sur les faiblesses de l'esprit humain, etc. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment très intéressant.
Répète-moi le titre.
C'est The Visit.
The Visit.
Voilà. D'accord. Donc à la fin du film, si je résume bien le truc, on apprend que Bruce Willis est un homme de verre, il est mort et il est allergique à la flotte. Un truc dans le style.
Ouais, en gros, c'est ça, ouais.
Et que ça faisait 50 ans qu'il vivait dans un village.
Au milieu d'une forêt.
Ouais, exactement. Voilà. Un truc comme ça. Bon. Merci en tout cas pour cette découverte. Moi, je pense que je vais aller checker ça dès qu'il sera disponible.
Bah, dès que j'aurai fini The Witness, dans 2 ans.
Merci en tout cas pour ces petits enjeux. Et puis maintenant, j'ai envie de dire merci pour ce podcast. Merci d'y avoir participé, que ce soit Camille. Très bonne première, hein, Camille. Bien joué. Ah,
merci.
Hein. Par contre, Ami, ça va, je plaisante. Julien, un peu en dedans. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci à Poufy à la Réal. Et merci à vous qui nous écoutez, qui nous regardez si vous êtes prêts, mais qui nous écoutez tout court chaque semaine pour les podcasts. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, il y a les commentaires. Hein, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à vous en servir.
Si vous voulez que je sois viré, allez-y.
Non, en fait, dites pas des choses comme ça, non. Ou alors sur Twitter uniquement par le biais des sondages. Enfin bref, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout...
Jouez bien.
Jouez bien, exactement. Allez, ciao.
Salut, hein.